Et du coup, il me dit, mec, ça tue ta zik. Et c'est la première personne qui me dit ça. Mmh. Et je me dis, putain, mais genre, tu kiffes. Et il me fait, mec, c'est énorme. Limite, en fait, on va faire ça. Donc, c'était Permis B à l'époque. Il me dit, viens, on finit ce morceau. Alors qu'on était sur le projet de la house, et moi, j'étais en train de monter un live, et j'avais plein de morceaux.
Ah, il a eu le nez, il a
sorti. Et en fait, on s'est barré, et on a fait du Miel de Montagne à fond. Et en fait, on a fait, enfin, c'est qu'on a fait, lui, il était juste derrière, en fait. Lui, il fumait des joints. C'était le mec parfait. Et en fait, je regrette de plus avoir ce gars, parce que ce gars, c'était le mec parfait. Il fumait des joints, et il me disait, ah, ça, c'est bon, ça. Et parfois, il me disait, ouais, cherche plus loin. Mais mec.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous, ça va Daz?
Ouais, salut Zalman.
Ouais, salut le monde, salut la France.
Oui. J'allais dire bonne année, mais on l'a déjà dit la
semaine
dernière.
On l'a déjà dit, bonne année.
Mais tu sais quoi, on peut dire bonne année jusqu'au 31 janvier.
Alors, bonne année.
Bonne année à tous.
Oui, si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, je vous encourage à le faire sur
Jaydila.
Jaydila, bien sûr.
Passionnant. Bonne année et puis bonne
la santé, c'est important.
Voilà. Et puis surtout écoutez tous les épisodes de DLT, laissez des commentaires,
oui,
mettez
parce
les
que là,
étoiles, je profite. Là,
on en est au 108e épisode,
oh là là.
Donc il y a de quoi faire. Hein. Vous pouvez en plongeant maintenant dans notre contenu, vous finirez pour la fin de l'année, je pense.
Tu penses, ouais. Ouais, faut avoir un bon rythme alors.
Bah,
parce
ouais,
que les 100
ouais.
épisodes, ouais.
Un épisode
tous les 3 jours, un épisode tous les 3
ouais,
jours à peu
ça.
Près quoi.
Ouais. C'est ça, et ça va pas s'arrêter, enfin j'espère.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Exactement.
Bon. Daz, aujourd'hui.
Alors.
Épisode, on revient à l'épisode avec des artistes.
Alors, est-ce qu'on arrête de parler de rap dans cette émission parce que j'en peux plus?
Alors.
Ah non, mais c'est insupportable.
Non, alors c'est vrai qu'on va pas parler de rap aujourd'hui.
Ah.
Figure-toi que, alors pas le prochain épisode, mais l'épisode d'après, on reparlera un peu de rap puisqu'on va recevoir un artiste qui vient pas du rap mais qui adore ça et qui nous en parlera, ça j'en suis certain.
D'accord.
Mais je ne dis pas qui c'est, je suis très content qu'on le reçoive, mais c'est. Pas de spoil pour le moment.
Pas de spoil. Mais donc aujourd'hui, ce n'est pas rap et aujourd'hui, c'est artiste. Alors,
exactement.
Qui avons-nous l'honneur de recevoir?
Mais nous sommes avec Miel de Montagne.
Salut
Miel
les gars.
Ça va Miel. Ça va être très bizarre de dire ça va. Miel.
Miel.
Ah, si, c'est bien, mais tu sais que c'est un prénom qui existe, Miel. Donc
ah ouais.
Ouais, mais ça doit être un truc genre hollandais ou.
Non,
ça
non.
Se dit Miel, tu vois, non?
Je crois pas.
Comme Neil.
Écoute, lui, en tout cas, il s'appelle Miel.
D'accord.
Non, ah, je m'appelle Milan, mais ouais. Miel, c'est cool.
On est obligé de poser la question pourquoi, tu
mais
vois.
Appelez-moi Milan. Hein.
On va voir.
Appelez-moi comme vous voulez.
En fait, moi, plus que. Non, plus
appelez-moi,
que,
te cours.
Plus que Miel,
ouais.
Moi, la question, c'est surtout pourquoi montagne et pourquoi pas plaine, par exemple.
Ah.
Ou pleine fleur.
Parce que c'était écrit sur un pot de miel. C'est aussi simple que ça. Il y a marqué Miel de Montagne, j'ai fait, c'est ça.
Ok.
Donc c'est
déjà,
resté.
Okay.
Puis après, en fait, j'ai remarqué que inconsciemment, en vrai, je vais dire la vérité, c'est qu'inconsciemment, il y avait un truc genre M de M.
Ouais. Ok.
Et il y avait genre Miel de Montagne, Mike de Marco.
Ah ouais.
Ça me rassurait.
Genre c'est un peu ton idole Mike de Marco.
Ouais. Et ça me rassurait de ouf. Et je me suis dit ok je garde. Mais ça j'ai mis super longtemps à capter ce truc.
Ok.
Je crois que c'est un pote à moi qui m'a fait remarquer ça. Et récemment, attends, mais je fais des psychanalyses assez souvent. Et récemment, je sais plus ce que j'ai vu. Ah putain, je sais plus. Tu vois, Maison du Monde. Ça me rassurait un peu. Je le voyais un peu partout. Ce truc de N de M.
Bon, alors attends, je précise quand même, parce qu'on est avec Miel de Montagne, on l'a dit, il est artiste, il est auteur, compositeur, interprète. C'est un projet Miel de Montagne dans lequel tu fais tout, tout simplement. Tu fais plein d'instruments, tu composes, tu chantes, t'écris les paroles. Alors parfois aussi, tu peux être accompagné et tout.
Ouais.
Mais globalement, c'est vraiment toi au centre du projet. D'ailleurs, tu bosses beaucoup, tu maquettes beaucoup à la maison et tout. Puis après, j'imagine, studio.
Après, je garde les maquettes, ouais. Je file juste ça à un mixeur parce que.
Okay.
Parce que le mix, c'est. Putain, c'est chaud. Mais en vrai,
c'est une chance.
En vrai, souvent, je me dis, je pourrais garder mes mix, mais. Tu sais, j'ai le FOMO. Je me dis, putain, si je garde ce mix, je passe peut-être à côté d'une basse qui sonnera mieux. Et du coup, ça me stresse un peu. Donc, à chaque fois, je me dis, il faut que je le laisse à quelqu'un qui a les oreilles fraîches et tout.
Mais c'est bien de déléguer.
Mais surtout, mais c'est surtout pour la voix aussi.
Ouais.
C'est compliqué, je trouve, de mixer sa voix. Déjà, c'est compliqué de s'entendre. Et en plus, tu dois mixer et tout. Souvent, les ingés, ils t'amènent ailleurs et tout.
Ouais.
Surtout quand tu rencontres des gars qui te connaissent bien. Qui savent ce que t'aimes et tout.
Ouais.
Non, et puis c'est cool. Mais sinon, franchement, je fais tout de A à Z. En fait, je crois que c'est ce qui m'éclate. C'est. Tu sais, j'ai une image, j'ai un projet, un produit, donc j'ai envie d'aller jusqu'au bout du truc.
Parce que ça va au-delà de la musique, c'est-à-dire que tu mets aussi les mains dans le cambouis sur la DA, sur les visuels, etc.
Ouais. En fait, faut que l'idée, elle parte de. Enfin, sur c'est hyper orgueilleux, mais genre, faut que ça parte de moi pour que j'ai un vrai kiff et une vraie excitation à faire le truc jusqu'au bout. Et j'ai eu beaucoup de groupes et tout, et ça a toujours été un peu complexe parce que il y a un truc de concession que tu dois faire, de compromis, de machin.
Et dans les groupes, du coup, t'étais un peu le frontman quand même ou...
En fait, non, justement, j'étais batteur dans mes groupes.
Ah ouais.
Parce que j'ai commencé avec la batterie. Donc il y a un truc où genre, de toute façon, c'est ta faute. Et en plus de ça, tu parles pas musique, quoi. T'es genre un poum-tchak.
Ouais.
Et du coup, c'est horrible, c'est le pire taf. Et je pense que ça va peut-être trauma. Et après, genre, j'étais là, non, mais attends. Mais en fait, en faisant de la musique aussi tout seul, je me suis rendu compte que mes facilités étaient plus dans la mélodie. Enfin, j'étais plus mélodiste que... Mais tout le bagage de travail autour de la percussion, de la batterie et tout, c'est vraiment c'est le plus important dans la musique, le rythme. En fait, tu peux faire une note.
Puis on le sent, c'est cool. Je trouve en particulier sur les deux derniers albums que sur les batteries, tu t'es fait chier, quoi. Alors sur les premiers, c'était un peu plus en mode boîte à rythme et tout. On a beaucoup plus de batterie acoustique ensuite. Enfin, j'ai le sentiment, on en reparlera, hein, mais
ça se trouve, c'est juste un plugin.
Mais justement, au contraire, je me suis fait plus chier au premier.
C'est vrai?
Ouais, parce qu'en fait, j'essayais de refaire des batteries avec un ordi, c'était insupportable. Donc en fait, je passais des heures à faire du MIDI. Donc pour moi, ça. C'est plus chiant à faire.
Ok. Bon, on en parlera de toute façon, on parlera de ta façon de travailler, etc. Je précise d'ailleurs, tu fais de l'électropop, ça te va comme.
Ouais, comme truc. Français.
Ouais, où tu chantes en français, effectivement. Bon, typiquement, t'as, pour donner un peu un exemple tout de suite
allez,
aux auditeurs, ton tube, c'est pourquoi pas.
Ouais, c'est le morceau qui a.
108 BPM.
Qui est toujours
là.
108 BPM.
108 BPM.
Ouais, 108, j'ai menti, c'est 107. En
fait, c'est vrai, ah merde!
On change le numéro de l'émission.
Ah, ouais.
Bon, on s'écoute un extrait et puis de toute façon, on reprendra tranquillement ensuite le fil de ta carrière. Tous souris, même toi tu t'as rigolé. Pourquoi t'as rigolé?
Bah parce que je sais pas, je pense que je suis un peu gêné, tu sais.
C'est vrai?
Genre en fait, non, mais ouais, mais même après tout ce temps, genre parfois ça me gêne un peu d'écouter de la musique avec des gens, je sais pas, genre.
Ça te rappelle genre quand tu démarchais des labels et que tu devais faire écouter tes sons à des
Ouais, de toute façon, je pense que je reste toujours quand même quelqu'un de. Enfin, je suis pas hyper confiant dans. À certains moments, mais ce qui est cool, c'est que maintenant j'apprécie ces moments de non confiance. Enfin, il y a pas de malaise, quoi. Genre juste, ça me gêne, mais j'aime bien avoir. En fait, j'aime bien toute émotion. Du coup, que j'ai cette émotion, je me dis ah cool, j'ai eu cette émotion aujourd'hui. Je suis vivant et je suis. Et du coup, je suis content d'être
bien gêné, mais vivant. Comme
non, mais ça me fait grave plaisir. Mais oui. Après là, peut-être aussi parce que. Je suis grave en vacances. Enfin, je fais absolument rien de ma vie. Du coup, je suis en mode vas-y.
En ce moment, hein, on précise.
Oui.
Et du coup, genre, je vais pas trop sur les réseaux, je suis pas en train de me regarder, tu vois, chanter des lives, enfin, tu vois. Parce qu'il y a un truc un peu genre. C'est un truc de fou.
Je pense qu'on en parlera justement de cette partie-là aussi.
Ton dernier album, Ouin, donc, qui est sorti en 2025, il a connu une version de luxe en novembre dernier, donc c'est quand même relativement récent. Mais là, vraiment, tu vas avoir d'ailleurs des grosses dates de concert en mai à la Maroquinerie. Ouais. Combien de Maroquinerie à la suite?
On en fait 4 là. Et voilà.
Quelle date
Je
crois que c'est parti. C'est le 26
c'est mai. Ouais, c'est ça.
C'est autour du 26 mai. Et entre-temps, là, tu t'es dit, vas-y, pause.
Ouais. C'est que moi je fais vraiment les choses à fond et du coup quand je décide de m'aérer l'esprit ou d'être en vacances ou de faire un truc je le fais à fond du coup là
donc là tu fais rien à fond
mais à donf à mort et c'est trop agréable parce que je pense que j'ai vraiment ces deux dernières années énormément j'avais jamais autant travaillé de ma vie du coup c'était un bon marathon Donc je savoure.
Plutôt cool parce que le travail en question, c'était le fait de faire ta musique ou d'aller la défendre.
Bah les deux en fait, il y avait les deux, ouais.
Ouais, parce que
il y avait le fait de faire vraiment, d'amener au bout les projets que j'avais en tête,
ouais,
dans un timing assez serré avec des deadlines, et en fait, j'ai réussi à respecter tout, si tu veux, la stratégie qu'on a mis en place avec l'équipe, mais aussi j'en ai perdu le sens aussi de juste faire de l'art sans but, quoi.
Ouais.
Et du coup, c'est pour ça que j'étais un peu essoufflé à la fin, parce que j'étais là, putain, mais... Genre, c'est cool la stratégie, mais à un moment, j'en ai marre de courir, tu vois. Genre...
Mais ça veut dire qu'il y a bien une strat, tu vois. Parce
mais
que là, t'es
strat,
là,
ouais,
t'es cool et tout, machin, on pourrait dire, ouais, ça va, il prend les choses.
En fait, il y a une strat juste parce que j'ai des projets.
Ouais.
Je suis là en mode, mec, je rêve de faire ça. Donc les gars, ils sont là, bah, si tu veux faire ça, faut faire ça. J'étais là, ok, bah, alors faisons ça. Mmh. Et du coup, il y a des trucs que j'essaye et que j'aime pas, et je dis, ah, bah non, ça, j'aime pas. Mmh. Et ça, j'aime bien, vas-y, on y va. Mais la strat, c'est juste parce que j'ai des envies et du coup, on essaye d'aller là. Là où le plaisir.
Et ton équipe, justement, elle va pas te dire, ouais, ça, mec, oublie, genre.
Si, bah, ils me le disent tout le temps.
Ah oui, d'accord.
Genre, le Stade de France, le Stade de France, mec, oublie pour
le
moment.
Ils le disent tout le temps. Mais ça va, j'ai quand même. J'ai de la chance de rencontrer des gens et je me suis entouré de gens qui défendent mon projet, qui y croient. Donc, je me sens plutôt bien, là, avec l'équipe que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment cool. Ouais.
Alors je précise, juste, on reparlera d'équipe, d'entourage, etc. Mais oui, les Maroquineries, c'est 26, 27, 28, 29 mai. Donc si jamais vous voulez aller voir Mille de Montagne en concert. Et d'ailleurs, parce qu'on a écouté un extrait qui était issu de ton EP, mais c'est 2018, ça fait déjà pas mal d'années,
mine de rien.
Putain,
c'est chaud. Mais tu sais que là, en le réécoutant,
Tu sens que c'est 2018, ouais, ça te fait. Qu'est-ce que ça te fait un peu
En fait, non. Enfin, genre, je me dis, mais attends, c'est trop bizarre, genre. Il y a un truc où je suis toujours surpris, je suis là, ah ouais, mais j'ai fait ça, enfin, tu sais, j'aurais pu faire ça hier, enfin, je sais pas,
c'est un morceau que tu joues, j'imagine, encore en live.
Mec, y a pas le syndrome de Peter Pan, bonsoir.
tu le joues encore en live, ce morceau.
Ouais, c'est encore un de mes morceaux préférés, c'est-à-dire je m'en lâche jamais, quoi.
Ouais. Ça, c'est bien, parce que généralement, quand on discute avec des artistes, ils nous disent un peu le contraire.
Sur leur gros tube.
Ouais, souvent, c'est ouais, j'en ai un peu plein le cul de ce tube-là parce que bah, c'est bon, quoi.
Moi, ça me fait l'effet inverse. Enfin, en tout cas, ce morceau en particulier, vraiment, je le kiffe.
Après, ça fait 8 ans.
Ouais, peut-être que dans 10 ans encore. En plus, tu vois, c'est bon.
Ouais, peut-être. Ouais. Mais je crois pas en vrai, parce qu'il y a un truc très léger. En fait, j'ai du mal à reconnaître ma voix aussi. Du coup, ça me chill. Parce que c'est peut-être ça qui saoule aussi, c'est d'entendre ta voix.
Après, ça se trouve, c'est pas ta voix parce que ça a déjà été repris par Spotify qui a mis une intelligence artificielle à la place.
Exactement. Bon, je l'entends bien, là, le chorus du SP404.
Si on se replonge un peu en 2018, avec ce premier EP qui déjà va être remarqué un an après, d'ailleurs, il y a ton premier album qui s'appelle Miel de Montagne, en 2019. Si on se replonge un peu dans.
Ouais. Pas trop inspiré à ce moment-là. Je prenais les premiers trucs.
Après, avoir un autre pot de trucs en face de toi.
Pour un premier album, tu vois, Miel de Montagne. Enfin, c'est ton nom, quoi.
L'album éponyme.
Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, en fait, je disais, mais j'ai le droit de faire ça. Ils ont dit, ouais, t'as le droit, ça s'appelle un album éponyme. J'ai fait, mais c'est parfait.
c'est ça
m'enlève un souci, les gars.
Après, le problème, c'est que
moi, je voulais juste sortir de la musique. J'étais là, les gars, je suis trop pressé.
Le souci, c'est que tu peux plus le faire. C'est terminé.
Ouais. Mais c'est bien.
T'as cramé le truc,
ou alors, tu peux dire Miel de Montagne 2.
Ah, ça pourrait être façon Led Zepp, tu vois.
Ou de miel de montagne, tu sais.
Ah,
mais
non,
mais faut accepter, les histoires. Ouais. C'est comme une histoire d'amour. Elle a été faite, elle a été rincée et t'acceptes.
Miel de montagne,
t'acceptes d'avoir
Tokyo
des
Drift.
Beaux souvenirs, mais voilà, c'est tout.
Non, on peut.
Tokyo Drift.
Ouais, miel de montagne, Tokyo Drift. Tout miel, montagne.
Ah oui, tout miel.
C'est Fast and Furious.
Ah, il y a plein de trucs à développer.
Ouais, il y a des choses à faire.
Ouais, si on se replonge un peu 2018-2019. Comment tu bosses à ce moment-là? Est-ce que c'est un morceau après l'autre? Déjà, t'as une idée de produire un album, de faire, tu vois, un projet qui a du sens entre les morceaux.
Avant même d'arriver là, c'est 2018, l'EP sort.
Ouais.
C'est à quel moment avant ça que tu te dis, je fais tout seul et nique sa mère les groupes?
En fait, quand t'as raté ta carrière DJ. Non, mais j'ai pas raté cette carrière.
Je te taquine, mais parce que j'ai entendu ce truc. Comme quoi, t'avais vraiment commencé au début en mode.
En fait, ça commence bien avant, je pense. Je pense que j'avais des groupes, etc. Et je me suis mis sur GarageBand en 2017. Enfin, je devais avoir. 18 ans.
Ouais.
18 ans, là, je commence à faire des sons un peu trip-hop. J'enregistre avec une meuf. Des trucs, Nastasia, je sais pas, j'étais à Tours, j'étais en école de jazz à Tours, je fais de la batterie, mais à côté de ça, je prends des cours. avec un gars qui fait de la dubstep sur Ableton. Là, je commence à me dire, ok, c'est un délire. Donc là, c'était trop bien la dubstep parce qu'il m'apprend tous les trucs hyper techniques. Il m'apprend le sidechain, il m'apprend tout ça en fait. Et d'un coup, je me dis, ok, trop bien. J'ai tout pour faire tout seul. Et à ce moment-là, je fais de la house à fond. Mmh. Et en plus, c'était vraiment la mode de la lofi house, la deep house. Tu vois, Moscalus sur YouTube. Tout, je sais pas si tu vous connaissais, mais.
Non, mais ok.
Bref, t'avais vraiment des gars qui reprenaient ce dessin animé là. Comment il s'appelle le mec là Tu sais, le chien jaune et le gars avec le chapeau blanc là.
Le chien jaune et le gars avec le chapeau blanc. Tu parles d'Inspecteur Gadget?
Non, pas du tout.
Le chien jaune et le gars avec
Il est trop bien ce dessin animé. Ces mecs, ils sont défoncés. C'est un peu avant Rick et Morty. C'est la même ambiance.
Ah, est-ce qu'il s'agit de Adventure Time?
Adventure Time, ouais. Qui est un truc de niche un peu, genre.
Ok.
Et c'est trop bien. Et genre, ouais, il y avait tous ces trucs-là. Et il y avait la Lofi House à fond. Et moi, je m'en rappelle, je déménage à Paris avec ma bande de potes et moi, j'étais en mode, vas-y, je veux être le meilleur DJ du monde, quoi. Okay. Donc, j'allais énormément à Berlin, j'apprends à mixer sur vinyle.
Ah ouais.
Et là, je fais vraiment.
Ouais, tu t'es vraiment chauffé.
Ouais, là, je fais vraiment de la house à 100%. J'ai sorti peut-être une dizaine de vinyles sous un alias qui s'appelle Tel. Okay. J'assume parce qu'en vrai, il est caché, ce truc. Okay. Parce que je fais toujours des trucs avec. Mais c'est caché, mais là, je le dévoile. Vas-y,
tu continues à produire sous ce nom-là?
Ah ouais, ouais, là, même en ce moment, je refais un peu de la house. J'adore.
Ah
mais
ouais.
C'est de la house, en fait, c'est juste par plaisir. Je sais pas, c'était des trucs un peu lounge, un peu deep house. Je sais pas, j'essayais des choses.
Et du coup, ça. Tu écouter un morceau ou t'as envie ou
ouais,
pas,
ouais, on peut écouter.
Mais attends, t'as quand même sorti des vinyles.
Ouais, j'ai fait pas mal de vinyles avec des labels sur Skylax, sur Noir et Blanche, du coup, qui fait partie de mon label aujourd'hui. Délicieuse Music, c'est un sous-label en fait.
Ok.
Parce que Délicieuse Musique travaille avec R&D. Donc en fait, j'ai deux labels. Ouais, recherche et développement. Ils apportent peut-être le côté un peu plus éditorial du label, mais ouais.
Ok. D'accord. Enfin,
j'ai connecté plein de gens ensemble pour le projet. C'est un peu hybride le bordel, mais c'est intéressant.
Et alors, donc cet alias, comment ça s'écrit?
C'est TE2L.
TE2L. Et il y a un morceau que t'aimes bien, par exemple, qu'on
tu peux mettre Cool Bananas. Mais il y a quelques gens qui sont au courant, mais c'est vrai que en fait je me dis vas-y fuck off, tu vois il y a Toro et moi par exemple qui avait Les Sins dont j'étais fan. Moi j'ai connu Toro et moi par Les Sins, son alias de house justement.
Okay.
Je sais pas si t'es au courant.
Non, je savais pas qu'il avait
Les Sins,
un alias.
En fait il a commencé avec la house et ça s'appelait Les Sins. Moi j'étais fan, j'écoutais, c'était une grosse rêve, j'avais envie de faire la même musique quoi. Mmh. Et après j'ai vu que c'était Toro et moi et il assumait, tu vois, mais peu de gens le savent. Moi, je sais pas si j'assume. En tout cas, c'est ce que je fais de temps en temps.
On va te dire, écoute, on écoute.
Non, mais genre, voilà, s'il y a des gens qui kiffent, let's go. C'est quelque chose que je fais par pur plaisir. Il n'y a pas plus de démarche que ça.
Trop bien, vas-y, on s'écoute ça. Cool Bananas, Tel.
Parce que donc petit side project, enfin même pas, c'était le projet initial en fait.
Ouais, en fait le truc c'est que je suis un grand fan de la musique samplée. J'ai commencé aussi à travailler avec des MPC, SP404 et au début de Miel de Montagne d'ailleurs sur le premier EP, je bossais beaucoup avec le SP404, je branchais mon micro-corg dessus, mes effets de voix, enfin. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas bossé dessus, et là, je suis en train de me racheter le nouveau là. Okay. Du coup, là, je suis comme un gamin, je suis en mode, oh, attends, genre, je retrouve mes anciennes habitudes d'il y a 8 ans. Donc peut-être je vais refaire des pourquoi pas, j'en sais rien. Mais ouais, du coup, j'étais vraiment dans ma chambre en coloc avec mes potes Et c'était avant Miel de Montagne.
Quand je me foutais de ta gueule en mode.
J'étais vraiment full ordi, tu vois.
Carrière de DJ raté. Parce que moi, je pensais que t'avais tenté un truc. Après, t'as dit non, je passe à autre chose. En fait, c'est vraiment. La musique électronique, c'est une grande passion que tu continues à faire en parallèle, etc. En plus du projet Miel de Montagne, quoi.
Ouais. De temps en temps, je me tripe. J'ai même des tracks de techno, Indus. Enfin, en fait.
Alors, c'est quoi le. Parce que là, donc, petit projet à la cool, 11 millions d'écoutes quand même.
Ouais, sur ce morceau, ouais, 11 millions d'écoutes.
Pour un truc undercover, c'est pas mal quand même.
Non, mais ouais, c'est marrant. Je pense qu'il doit se retrouver dans des trucs.
Mais c'est quoi le virage? Alors, à quel moment tu dis, OK, faire de la musique, bah, du coup, ça fonctionne, tu vois, et ça, c'est des trucs qui s'écoutent et tout. Tu dis à quel moment, vas-y, je vais chanter en français.
Tout simplement, en fait, les premières fois que j'ai fait de la musique, c'est mon père qui m'a offert, enfin, tout seul, hein, j'entends, sans le groupe en mode batteur, mais genre tout seul à faire des compos chez moi. Dans ma chambre, je pense que j'avais 15 ans et mon père m'offre un petit Boss 4 pistes vraiment tu sais numérique qui sonne vraiment mauvais, mais genre ça c'est la première fois. Et je crois que à 15 ans justement, c'était l'époque où King Krul faisait son premier disque, je crois, et c'est pour moi, j'étais fan de ce mec et je me suis dit putain, mais ce gars il a mon âge, il fait un album, c'est un truc de fou. Et je me rappelle être hyper inspiré de ça et j'étais ah ouais, moi aussi je veux faire du King Krul, et j'avais commencé à faire des trucs avec ma voix et ma guitare. Et après gros shame de chanter. Les gens qui disent, mec, c'est dégueulasse ta voix, enfin, t'es mort, tu vois. Donc, aucune confiance en moi. En plus, après, j'étais dans l'adolescence pure et dure. Donc, voilà, enfin, tu vois, tout ce qui va avec. La découverte sociale, la timidité, l'espèce de. Enfin, voilà, tout ça avec les filles. Enfin, j'étais vraiment dans les expériences totales de la vie étudiante sans l'être. Donc, c'était génial. Mais ouais, j'avais vraiment aucune confiance en moi. Et je pense que, je sais pas, j'ai dérivé dans la haut, j'étais en mode ok, c'est cool, je suis planqué derrière mon ordi, je fais ça. Mais en vrai, au fond de ma tête, et je le répétais d'ailleurs à mes potes, j'ai dit un jour, je ferai le projet de mes rêves, tu vois. Et en vrai, c'est une vraie vérité, genre je l'avais au fond de ma tête, je me suis dit un jour, je ferai un projet qui sera, ça sera un gros truc, tu vois. Et un jour, j'ai juste ressorti, en fait, je faisais toujours de la haut, ça pourquoi pas et tout, à ce moment-là. Même d'ailleurs sur l'EP, il y a un feat avec ma mère là, tu n'y connais rien.
Oui.
En vrai, c'est une instru un petit peu électronique. Et d'ailleurs, c'est le premier morceau de Miel de Montagne. Et enfin, j'avais mis ma mère parce que j'étais encore dans ce truc de je sample et je mets pas ma voix et tout. Mais j'avais là à ce moment-là, j'avais sorti la guitare. Et après, pourquoi pas, j'ai juste rajouté ma voix. Mais pour moi, à la base, c'était juste un track de house au début, un peu plus pop, un peu plus ralenti. Mais je découvrais Sébastien Tellier. À cette époque-là, en fait, je découvrais un peu ça. Sébastien Tellier, je m'intéressais un peu à la French Touch. Et du coup, je pense que ça en est dérivé ça. Mais...
C'est marrant parce que je comprends maintenant le cheminement où on comprend que petit à petit dans le projet, l'écriture, le texte, le chant de manière générale ont pris un peu plus de place.
Ouais.
Parce qu'en fait, à la base, tu viens vraiment de ce truc samplé, etc. Où il y a des morceaux où tu répètes trois fois la même phrase, tu vois. Et c'est dans ta culture musicale.
Ouais, puis j'étais pas dans la chanson du tout. Genre, pour le coup, à cette époque-là, mon père, il captait pas. Enfin, la musique, tu vois, je lui demandais pas conseil sur ma house et tout. Enfin, c'était vraiment genre, il était là, ah ouais, ok, c'est cool. Il s'en foutait un peu de ce que je faisais et on communiquait pas du tout. Au contraire, avec Miel de Montagne, ça nous a vraiment réunis.
Mais je précise juste quand même, parce que tu parles de ton père, on l'a pas encore dit dans
ah oui, parce qu'on en a parlé tout à l'heure.
Qui est musicien, en fait, ton père lui-même.
Il est un fou, en fait.
Et qui est musicien depuis longtemps, qui a accompagné des groupes. Je pense qu'il a accompagné les Rita Mitsuko, des choses comme ça, si tu dis pas de bêtises.
Ouais, il a travaillé un peu avec Catherine Ringer, je crois.
Et puis surtout, il est assez réputé en tant que parolier, auteur, puisqu'il a écrit, c'est lui, par exemple, qui a écrit Kid Nous 2 de M, de Mathieu Chédid. Il a écrit Divini Deal de Vanessa Paradis, il a bossé avec Bachon aussi, bon bref, donc c'est quelqu'un qui est assez reconnu.
Oui, on c'est qu'on en a parlé en off, ouais. Du coup, ouais. Désolé, absolument. Ça sort comme ça, mais...
T'inquiète, c'est notre caution journalistique.
Okay, et tu dis que tu parlais un peu du lien, de lui faire écouter ta musique, etc., parce que tu considères, c'est des choses que t'as déjà dit, qu'il a participé quand même à cet amour que t'as pour la musique, à une forme de transmission.
Ouais, si on switch sur ce sujet, carrément. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en off, parce qu'on en a un peu parlé, mais genre, en fait, j'ai eu la chance d'avoir ce soutien et de juste, ok, c'est possible de faire de la musique. Et puis surtout, comme je te dis, il m'a aidé un peu, tu vois, il m'a acheté un 4 pistes. C'est aussi des trucs où, genre, s'il me l'avait pas offert, peut-être je me serais pas autant intéressé à enregistrer tout seul, à essayer des choses.
Mais du coup,
la guitare, il m'a quand même, tu vois, prêté sa guitare, il m'avait même acheté une guitare ado.
Mais au début, du coup, quand il t'a vu partir plutôt dans un truc 100% instrumental, électronique, il devait être en mode bon.
Ouais, c'est ça, il était en mode, parce que lui, il aime pas du tout, quoi. Enfin, franchement, dès qu'il y a un kick to the floor, il déteste
c'est
ça.
Culture, c'est plutôt le rock.
À chaque fois, je lui dis, oh, regarde, écoute, ça tabasse. Et il est là, mec, c'est affreux, quoi. Enfin, genre vraiment, il déteste ça. Et du coup, forcément, on n'en parlait pas beaucoup, mais moi, c'est vrai que je sais pas, j'y croyais, mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'étais là, non, mais il y a un projet que je vais faire, je sais pas ce que c'est. Mais franchement, en vrai, pour dire les termes, comme je le ressens, je me chiais dessus, quoi. Mmh. J'avais une peur, une boule au ventre de ne serait-ce que chanter devant des gens ou faire écouter un truc qui était un peu plus pop.
Mais t'as peut-être
surtout aussi parce que je traînais avec des gens qui étaient en mode...
Ouais, c'est
c'était
de la merde.
Underground, ouais. Dès qu'il y avait un tout petit peu, un poil mainstream, ça craignait à mort. Enfin, franchement, j'étais dans non, avec une bande de potes assez élitistes.
Et la pression aussi de te dire, si j'écris un truc et que mon daron il me dit que ça a chié, ça va...
Il y avait peut-être ça, mais ça va, mes darons, ça va. Franchement, mes darons, je me suis jamais senti en compète avec mon père. Il y a jamais eu ce truc
non, pas de
compète, crainte un peu.
Tu sais, mais de dire.
Parce que mon père, lui aussi, était en mode underground, je vais pas dans la lumière.
Ouais.
Il a toujours été dans sa niche.
Ouais, mais il écrit des textes, tu vois.
Ouais, mais du coup, tu vois, lui, par exemple, il était quand même en retrait. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a assumé son truc de l'ombre. Mmh. Et il a toujours été un peu, d'ailleurs, mis en lumière en étant dans l'ombre. Enfin, ça reste dans les journaux, quoi. Mais, du coup, j'avais, moi, ce truc de, ah, ok, j'allais voir Mathieu Chédid au Zénith. C'était ouf et j'avais 8 ans et j'avais accès au backstage, je voyais un peu les dessous.
C'est génial pour donner.
Tu sais, je rencontrais Cyril Attef qui est maintenant un ami en fait, en plus il habite à Belleville. Cyril Attef, c'était le batteur de la tournée de Qui de nous deux justement. Et du coup, je pouvais voir tout ça, comment ça se passe, mais en même temps, j'étais pas non plus dans le showbiz parce que nous on était un peu plancos, on venait de la Cambrousse et on montait vite fait à Paris. Donc j'avais vraiment ce truc terre à terre. Mmh. Et je crois que et je suis très heureux d'avoir eu ça parce que aujourd'hui du coup, ça m'a un peu calmé sur ce truc.
Groundé.
Ouais, c'est ça, je peux pas trop me faire avoir par ce truc des paillettes, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis, cette peur un peu de verser dans la pop, parce que c'est pas forcément les gens que tu côtoies, le milieu dans lequel t'es initialement, etc. Et d'autant plus que tu te compliques un peu les affaires, entre guillemets, parce que non seulement tu vas faire un son plus pop, mais en plus, tu vas adopter quand même une démarche relativement décalée dans ce que tu racontes, une forme de simplicité, de la vie de tous les jours, etc., tu vois.
Ouais, c'est vrai, je sais pas, ça, je sais pas trop comment c'est venu. Puisque en fait j'ai décidé, au moment où j'ai pris mon courage à deux mains, après il y a des gens qui ont participé à ça, notamment Jacques, je pense, on était coloc ensemble, c'est un peu lui qui a écouté les premiers morceaux de Mille Montagnes et qui m'a fait découvrir.
L'artiste du coup, de musique électronique, Jacques.
Ouais. Pain Surprise à l'époque, qui est maintenant R&D. Et Pain Surprise, lui, Jacques, en faisait partie en tant que label.
Ouais. Donc, il m'a présenté. Parmi ceux qui ont monté le label, si tu dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté, c'est qu'à un moment, il y avait un conflit d'intérêt parce que sa part artiste prenait trop de place par rapport au label. Donc, Étienne, qui faisait partie du label aussi. Et il y avait aussi Petit Prince dans le lot. Ils étaient trois. Enfin, on va pas rentrer dans le sujet parce que j'ai pas toutes les cartes en main et voilà. Mais en tout cas, moi, je suis arrivé dans cette famille. Et c'est un peu grâce à Jacques qui avait écouté les premiers morceaux. Et ça m'a donné un peu confiance en moi aussi en me disant, ah, il y a des gars qui y croient, donc go. Et à ce moment-là, je pense que je me suis dit, vu que je me jette, autant me jeter à fond. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux être hyper honnête sur tout ce que je fais de A à Z. Et c'est pour ça que j'ai mis en avant mes dessins, ma voix, mon décalage et mes idées. Parce qu'en fait, je me suis dit, là, on y est. Si je me vautre, au moins, j'aurais pas de regrets. J'aurais fait à fond ce que je suis.
Tu voulais faire, ouais.
Ouais, voilà. Et encore aujourd'hui, c'est un leitmotiv. Hein, quand j'ai peur, je me dis, vas-y, fuck off. De toute façon... je suis comme ça, je vais pas faire semblant, tu vois, genre c'est un enfer sinon.
on s'écoute un extrait du premier album de Miel de Montagne, donc en 2019. Alors il y a Pourquoi pas qu'on a déjà écouté, qui est un peu le gros tube, mais il y a plein d'autres morceaux cool. Ceux par exemple qui ferment l'album sont un peu différents. Je pense à Fragile, à le Soleil Danse.
Ouais, le Soleil Danse, c'est mon père qui a écrit entièrement le texte, par
exemple.
Est-ce que t'as envie à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire on peut travailler un peu ensemble.
Ouais. Parce que c'est un truc que vous avez développé. Là sur cet album, il y a quand même peu de textes avec ton père. Par contre, sur le deuxième, vraiment, vous avez dit vas-y, on bosse beaucoup ensemble.
Ouais, c'est ça. En fait, le premier album, c'est vraiment un moment où j'avais 100 balles sur mon compte.
Ouais.
Je devais retourner vivre chez mes parents dans la Cambrousse, alors que j'avais 23 ans, parce que mes parents pouvaient plus payer mon loyer et moi j'avais plus aucune ressource. Mon gars, j'étais dans la pire merde. Mmh. Et du coup, je me suis dit vas-y, je vais passer mon permis. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un des morceaux qui s'appelle Permis BBB. Mais parce que vraiment, j'étais en mode, vas-y, je passe mon permis à 1 € par jour, parce que j'avais la proposition du Crédit Mutuel.
On salue le Crédit Mutuel.
Merci le Crédit Mutuel. Et du coup, je me suis dit, au moins, je fais quelque chose de ma vie, parce que c'est la pire lose, quoi. Et donc, vraiment, je rentre, et en fait, vu que j'étais vraiment dans ma chambre, heureusement, c'était pas ma chambre d'ado. Mes parents ont déménagé entre temps. Donc, je me retrouvais dans une belle campagne que je connaissais pas encore. J'aidais mon père et ma mère à faire les travaux de cette nouvelle maison. Donc, ça a bossé, le papier peint et tout. Et à côté, je me suis mis mon petit studio, tu vois, un clavier, un ordi, machin. Et j'ai fait l'album, en fait, parce que j'étais tellement frustré d'être là que je me suis mis en mode, faut que je fasse quelque chose de mes journées. Donc là, vraiment.
Donc t'avais un setup hyper.
Et puis j'avais 23 ans, j'avais grave la dalle, donc j'avais trop envie de faire de la musique, j'avais commencé à faire ce petit EP. Et du coup, en fait, l'album, il s'est fait direct.
Donc tu l'as fait avec très peu de matériel, en fait.
Je l'ai fait avec très peu de matériel, c'était une carte son qui valait 60 euros de Avid.
Ok.
que j'avais trouvé sur le Bon Coin, un micro Korg. Des VST.
Okay.
Et un Casio, un petit Casio.
Et pour les voix, tu as enregistré ça comme après
Les voix, j'ai enregistré ça avec un SM58, comme toujours aujourd'hui.
Ah ouais. À la maison même.
Ouais.
Ah ouais.
Aujourd'hui, j'utilise toujours un SM58.
Ouais.
J'ai essayé d'autres micros, mais ouais.
Oui, y a rien. On précise, le SM58, c'est un grand classique hyper basique.
Ah ouais, mais ça,
plutôt utilisé alors pour live que
ça
pour
marche bien avec
studio.
Ma voix. Ouais, je kiffe.
C'est fou.
Bon, il y a plein de trucs que j'adore, que je continue d'utiliser, et les ingé-sons me détestent pour ça, mais je suis désolé les gars, je continue.
Alors tu sais quoi, parce qu'on va s'écouter après aussi un extrait de Le Soleil Danse, mais peut-être un morceau que t'as écrit toi quand même sur Miel de Montagne. Est-ce que ça pourrait être Fragile? Pourquoi non, pourquoi pas, on l'a déjà écouté. Il y a Cette Fille, il y a J'y peux rien.
Il y a
plein de... un autre qui te plaît.
Un truc, je me rappelle plus.
Il y a permis, ouais, mais permis B, il est aussi un peu plus.
L'amour, ça, c'est un track que j'avais écrit tout seul.
Qu'il a un peu plus vraiment fait à deux, tu vois.
Bah, l'amour, c'était un des tracks, moi, je trouve assez fort de l'album.
Ouais.
Et ouais, je l'ai fait de A à Z solo.
Bah, vas-y, on s'écoute en extrait, puis après, Le Soleil Danse, parce que c'est vrai que c'est un beau morceau aussi.
Juste pour la petite histoire, la percu, parce que j'étais fan du morceau de Moody Monk, qui était genre, en Léa ou je sais plus, mais tu sais, il utilisait une petite percu de Bossa. Okay. Et j'étais là, ouais, moi aussi je veux faire mon la percu Bossa, bref, voilà.
Et que tu l'as pris. Ce morceau, il illustre bien le truc. Moi, c'est pour ça que je voulais te recevoir et que j'aime bien ta musique. C'est qu'en fait, à travers sa simplicité, y compris même mélodique, etc., et dans les paroles, etc., mais un truc touchant qui, même, que je trouve qui ressort de ta musique, tu vois.
C'est marrant parce qu'en l'écoutant là, avec le casque en bonne situation, j'avais pas fait gaffe, mais ouais, il y a. En fait, j'entends moi dans ma voix énormément de fragilité, parce que maintenant, du coup, je chante, techniquement, en tout cas, j'ai un peu évolué, et là, j'entends les fragilités, et je me dis, ah putain. Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être ça qui peut-être était touchant, c'était cette fragilité du début que tu peux pas contrôler, et que tu peux pas, ouais, et ouais. Mais c'est marrant de m'entendre parce que je me trouve jeune en fait de ouf. Mais en même temps, je me dis, j'arrive peut-être à comprendre le côté touchant qui, à l'époque, j'étais là. Je comprends pas, c'est affreux et tout. Enfin, alors que là, je me dis, ah ouais, ok, je capte cette petite fraîcheur. Okay.
Et ton entourage, justement, il réagit comment quand tu te mets à assumer le fait que t'as envie de chanter et tous tes potes
En fait, tous mes potes, je me suis barré, ouais. j'ai quitté tous mes potes pour le faire, le projet. Parce que c'était trop dur, en fait. Enfin, ouais, après, j'étais avec une bande de potes. Ça faisait longtemps qu'on passait beaucoup de temps ensemble. J'ai pris un peu de recul. Je me suis retrouvé un peu seul. Et j'ai rencontré une personne hyper importante au projet qui s'appelle Joris Crombé, qui fait des meilleures huîtres au Cap Ferré aujourd'hui. Qui a choisi la voie d'ostriculteur à 100%.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Dingo. Il faisait quoi quand vous vous êtes rencontré?
Et je pense toujours à lui quand je fais de la musique. Hein, genre, c'est vraiment mon.
En quoi il t'a aidé?
Bah, en fait, il m'a aidé. On avait commencé à bosser sur Tell justement pour faire un album de House ensemble. Enfin, je voulais faire un live. J'étais en train de monter ça et du coup j'étais allé en résidence à Bordeaux à Délicieuse Musique et lui il était stagiaire là-bas quoi. Et il essayait de faire grossir le truc machin et en fait les gars qui sont aujourd'hui mon label du coup Délicieuse Musique, Mathieu et Gauthier me mettent en relation avec Joris en disant ah bah tiens notre stagiaire il est trop chaud, il va t'aider genre à monter le setup du studio, t'enregistrer, nanana. Et en fait on se rend compte Et on est comme des cousins, quoi. On est des bros. Moi, je passe ma vie au Cap Ferré. Il me présente toute une vibe que je connaissais pas du Ferré, avec tous ses potes qui ont grandi, donc qui détestent les touristes, mais en même temps qui sont dépendants des touristes pour survivre. Il y a toute cette vibe à lancer des œufs pourris chez Pascal Obispo. Enfin, et on est en décapotable comme ça. Et lui, il me fait découvrir toute une culture reggae de malade, que j'avais déjà à 14 ans quand j'avais découvert la weed et ça allait ensemble et tout. Parce que j'étais un énorme cliché ado, tu vois. Et en fait, lui, il me refait découvrir la weed. À ce moment-là, j'ai 22 ans, 23 ans. Enfin, et du coup, il me dit, mec, ça tue ta zik. Et c'est la première personne qui me dit ça. Quoi. Mmh. Et je me dis, putain, mais genre, tu kiffes. Et il me fait, mec, c'est énorme. Limite, en fait, on va faire ça. Donc, c'était Permis B à l'époque. Il me dit, viens, on finit ce morceau. Alors qu'on était sur le projet de la house. Et moi, j'étais en train de monter un live et j'avais plein de morceaux.
Ah, il a eu le nez. Il a
et en fait,
truc.
On s'est barré et on a fait du Miel de Montagne à fond. Et en fait, on a fait... enfin. C'est qu'on a fait, lui, il était juste derrière, en fait. Lui, il fumait des joints. C'était le mec parfait. Et en fait, je regrette de plus avoir ce gars, parce que ce gars, c'était le mec parfait. Il fumait des joints et il me disait, ah, ça, c'est bon, ça. Et parfois, il me disait, ouais, cherche plus loin. Mais mec, et il me faisait des pastas à la Vangolais aussi. Oh. Cuisinait bien. Et donc, c'était le mec parfait. Il avait trouvé un plan pour finir l'album. Justement, on était partis dans un plan chez des potes. D'ailleurs, ODZN, ils ont fait pas mal de résidences là-bas à Contis Plage. Si tu les invites un jour, tu leur demanderas. Okay. Mais il y a une baraque de fou furieux en bois du fils du gars qui a fait la marque DDP. Enfin, c'est des espèces de connexions.
C'est très improbable.
Et lui, en fait, c'était tout ça au Ferré. Il avait ces connexions-là de tous ces gars et tout. Et genre, c'était un monde. Ouais, c'était vraiment une période de fou parce que.
Découverte.
Parce que voilà, ouais. On était tous les deux comme des frères. Et lui, juste, il me disait branche l'ordi. Et moi, je suis un gars. Genre, je pense, mon cerveau, c'est un enfer, mais j'ai du mal à faire les choses. J'ai vraiment besoin d'un gars. En fait, je peux te faire des albums tous les mois, si tu veux. Si t'es là derrière à me dire, c'est bon, j'ai allumé l'ordi. Vas-y, mets-moi un son. Fais-moi un son. Si tu me dis ça, en fait, moi, je vais vouloir te séduire. Je vais te faire un son. C'est terminé, plié. La journée, mec, je t'ai fait un son. Et en fait, le problème, c'est en étant tout seul et c'est impossible. Genre, j'arrive pas à allumer l'ordi.
People pleaser, en fait.
Mais j'arrive pas à enregistrer, ouais. Tu sais, je fais des trucs de ouf, parfois. Parfois, je me dis, putain, mais c'est tellement énorme. J'aurais juste à enregistrer et je fais bon vas-y je vais aller bouffer enfin et en fait je le fais pas du coup dans le processus je suis très long mais parce qu'en fait je marche au gasoil enfin il me faut un gars qui me fasse le gasoil et c'était triste quand il m'a annoncé au Covid j'aurais ce qu'il allait faire l'ostriculteur mais en même temps j'ai appris énormément de choses aussi j'ai commencé à me professionnaliser en fait quand il est parti je me suis dit, faut que je me trouve un manager et là tout le côté, si tu veux, un peu carré d'avoir une équipe solide et de commencer à réfléchir à un truc où genre... En fait, le moment où genre, j'ai eu l'impression que c'est devenu mon métier, c'est à ce moment-là, après, quand il est parti.
Tu sais quoi.
D'un coup, j'ai un deuxième album, machin. Là, d'un coup, je me suis dit, OK, ah, c'est mon métier. Ça a été dur, la passation. Genre, ah, c'est mon métier, la musique. C'est trop bizarre.
Mais Joris, là, il est au courant de l'importance qu'il a eu pour toi quand
ouais,
même,
ouais, je lui dis. Okay. Je l'appelle tous les ans, son anniversaire en fin d'année. Je lui dis, mec...
C'est grâce à toi à tout ça.
Non, mais je lui ai dit en fait. Souvent, quand je suis un peu perdu, je pense à lui. Ouais, c'est vraiment un. C'est comme
un phare dans la nuit.
Ouais, c'est un phare dans la nuit, exactement. Ouais. Donc voilà, mais je le dis, il le sait. Et moi, je suis trop content qu'il soit heureux à 5h du mat, un truc que je pourrais jamais faire, à 5h du mat, à se geler les couilles dans le bassin d'Arcachon, je suis vraiment heureux qu'il fasse ça.
Et de là, c'est hyper bien ce que tu dis, parce que ça, c'est vraiment un bon exemple de, alors l'entourage professionnel, c'est important, mais même juste l'entourage de copains, de famille, tout le soutien, en fait, qui disent, ouais. Mec, c'est bien ce que tu fais, mine de rien, ça compte.
Dans plein de domaines. Attends, ouais, alors, ouais. Est-ce qu'on pose la question, quand Joris, il est derrière toi et que toi, t'es en studio en train de créer, est-ce qu'il a des points? De composition.
Ah non, alors, ça va être le running gag.
Alors moi c'était hyper compliqué parce qu'en fait on était jeunes. Moi je me suis fait mec, je m'en fous de l'argent, tu vois. Et du coup, j'étais en mode je sais pas, genre là je suis en train de faire de la zik, la question se pose pas, lui non plus. Et en fait non, il a pas eu de points. Il a pas de points, c'est pourquoi parce que en fait il jouait d'aucun instrument. Il était en fait réal. Donc il a eu des points de réalisation.
Ouais, il a eu des points de réal.
Mais ouais, je lui ai donné des points de réalisation. Ah, okay. Mais au début, en fait, ce qu'on a fait, c'est que vu que c'était mon manager aussi, il faisait un peu tout, tu vois, on commençait, il m'accompagnait partout. J'arrivais pas à le payer, donc je lui avais filé énormément de droits d'auteur. Et à un moment, je me suis rendu compte que genre c'était beaucoup too much pour ce qu'il faisait, surtout qu'il était plus mon manager et qu'il s'était barré faire des huîtres. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, ça te dérange pas que je reprenne ces points? mais que je te remette des points de réal qui étaient plus logiques sur les morceaux sur lesquels il avait bossé, parce qu'il y a plein de morceaux où il n'était pas là non plus, tu vois. Mais notamment le Soleil Danse, tu vois, toute la partie où ça va sous l'eau, c'est Joris qui m'avait poussé à faire ça, on avait branché les pédales et tout. Donc là, il a eu des points de réal et des points sur le master, du coup, pour les puristes. Là, mais écoute,
Il a répondu de manière très sérieuse. Ouais, à la base, c'était une private joke,
sérieux,
parce
mec,
qu'on en a déjà parlé une fois dans l'épisode.
Caché,
mais...
Genre,
non, mais en fait, j'ai posé la question à tout le monde. Je gardais la question pour la partie, justement, avec ton daron qui écrit,
ah,
tu
ouais,
vois.
Ouais.
Mais,
bah, même le
aussi,
daron, hein, c'est hyper straight. Enfin, moi, je suis hyper carré parce que ça, et puis je suis assez transparent sur la thune, je m'en fous un peu, enfin je veux que tout le monde soit content,
mais tu vois, comme faut que ton, ça soit ton cool, père quoi. Lui c'est son taf, donc est-ce que lui déjà quand il arrive et que tu lui dis papa viens on fait un truc ensemble, il fait ok, mais là c'est du boulot, tu vois, genre là...
Déjà je vais le chercher, je lui dis ouais faut que tu m'aides, le deuxième jour je dis ouais faut que tu m'aides, le troisième il fait bon allez je t'aide.
Ils sont de la même famille, hein, comme ça.
Et là, il arrive et il m'aide. Et en fait, il est trop heureux de m'aider. Moi, je suis trop content parce que ça me débloque des trucs. Surtout qu'il est. Mon père, il est très très fort sur la DA, genre la structure des morceaux et tout. Il aurait dû vraiment le faire pour d'autres artistes. Vraiment, c'est trop. Enfin, il est trop fort. Ouais, ouais. Ou même ID Scénic et tout. Franchement, il a vraiment des bonnes idées là-dessus, du coup c'est cool de l'avoir, mais ça tu vois tu peux pas, puis c'est mon père, il s'en fout, enfin tu finances pas ça. Mais par contre effectivement sur tous les textes qu'il a fait, genre vu que tu sais on est dans cette industrie, on était réglo en mode ah oui je te file ça nanana nanani.
Incroyable.
Et souvent ma mère elle est là, quoi t'oses demander des points, c'est tout, tu vois. Bon, ça c'est assez drôle,
on s'écoute enfin Le Soleil Danse. Et puis
ma mère aussi a eu des points, hein.
Ah oui,
parce que ma mère chante sur sur certains morceaux. Sur pas mal de morceaux d'ailleurs.
Ouais, ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais, elle fait les chœurs et parfois elle a trouvé aussi des petites paroles parce qu'elle passe tout le temps au studio.
Mais elle est musicienne à la base, ta mère ?
Elle accompagne mon père, ouais, elle fait les chœurs sur les concerts de mon père.
Ah, elle chante, ok.
Elle chante et puis tu connais, enfin, surtout de cette génération-là, il y a la femme qui est toujours là mais qui est limite plus. Qui sert énormément au projet aussi du padré, quoi. Donc. Bon. Non, ouais, c'est
un enfant
c'est
de la balle alors.
C'est
hein,
une équipe. Ouais, ouais.
Bon, Le Soleil Danse, on se l'écoute enfin.
Allez,
et puis
vas-y.
Après, on parle justement de la professionnalisation du deuxième album et puis du troisième, le dernier. Ce morceau,
c'est très joli, et en plus maintenant qu'on a le background avec le daron, avec Joris et tout,
vous allez me faire pleurer les gars. Non, en vrai c'est marrant, mais j'ai dû passer un cap récemment, mais j'ai une nostalgie profonde là d'un coup en parlant de tout ça et tout, et même dans ma voix là, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ces morceaux, et genre j'ai l'impression de voir le jeune Milan et je me dis putain c'est fou la vie, quoi.
J'aime trop parce qu'il parle de lui comme s'il avait 50 ans.
Mais oui.
Mais ouais, mais en fait, putain, mais ouais.
Là, on est en quelle année, là? Attends.
Là, on est en 2019.
Ok.
Non, non, mais bon, sais, je sais pas, il y a des prises de conscience parfois. Ouais. Mais c'est aussi parce que je suis peut-être en éveil sensoriel, parce que vu que, tu sais, je suis dans un... dans un moment de pause où genre, vraiment je fais rien à fond. Je suis dans des perceptions de la vie, des ressentis.
Oui, t'es pas dans le rush, quoi.
Ouais, exactement.
Ça te permet de.
Et c'est magnifique.
Ouais.
Je souhaite ça à tout le monde. Franchement, c'est un privilège incroyable et je suis content de le vivre aujourd'hui avec vous.
Avant de parler du deuxième album, on peut dire. J'imagine que comme tu rencontres quand même un certain succès avec l'EP, l'album, ça se passe plutôt bien. Tu dis que ça y est, tu as conscience que tu vas devenir musicien professionnel, entre guillemets, ça va devenir vraiment ton métier.
J'en ai pas eu conscience. Ça a mis vraiment de temps.
Ça a mis plus de temps encore. C'est pas tout de suite après le premier album.
Non. Vraiment, ça a mis masse de temps. Okay. C'est plus quand ça a commencé à parler d'argent, que j'ai commencé à avoir des problèmes d'adultes. Enfin, en tout cas, des pressions d'adultes. Ouais. Mais je crois que c'est même pas lié à la musique, c'est lié juste à l'âge, à comment le système fonctionne, en fait, je pense.
Ça arrive quand plutôt? Alors, c'est sur le dernier album?
C'est le deuxième album, ouais.
Ah, sur le deuxième, oui, quand même, ouais, ok.
Au moment de la tournée du deuxième album, je pense que j'ai dû.
Parce que là sur. Donc,
tout ça, c'est une fraîcheur, ouais, c'est ça.
EP, premier album, c'est frais, mais je veux dire, c'est quand même signé en label.
Ouais.
Hein, tu vois, c'est pas.
Ouais, c'est signé, mais. Mais
c'est des copains, quoi.
J'avais l'expérience un peu du vinyle. On signait en label, on faisait un vinyle, on s'en foutait. Jamais eu de thune avec ces trucs. Enfin, il y avait un rapport, genre, ok, je sors du son. Moi, j'avais juste envie de faire des concerts, vivre du projet. Je voyais que ça marchait un peu, donc je me projetais un peu en mode, ah cool, je vais pouvoir refaire d'autres musiques dans ce style, tu vois. Mais à ce moment-là, ouais, je pense. Enfin, après, il y a le Covid, vraiment. Après la première tournée de cet album, il y a le Covid. Je tourne 2 ans, il y a le Covid. Et là, je me mets un peu plus la presse sur le deuxième. J'ai envie d'aller plus loin dans les chansons. Un truc un peu plus down aussi, parce que je pense que j'étais dans une énergie plus. Il y a Joris qui part, je me retrouve tout seul. Non, je te jure, franchement, à ce moment-là, j'étais en deuil du truc, quoi. J'étais là, putain, mais c'est chaud.
Genre, c'est une page qui se tourne, quoi. Vraiment.
Ouais, et du coup, j'étais en mode, ok, ouais, là, le mood, il est triste, mais vas-y, let's go, tu vois.
Parce que il y a un truc, on va écouter après, justement, ce deuxième album, tu nous parleras de ce mood plus triste, entre guillemets. Mais ce qui te fait quand même, ce qui fait ta réputation en partie, c'est justement ce dont je parlais, à savoir le côté décalé, le côté hyper coloré aussi dans la DA. Parce que tu dessines toi-même, tu crées un avatar, enfin, un personnage.
Ouais. Mais je crée le logo qui devient après un peu un perso. Ouais.
Et puis, alors en plus, toi, tu viens aussi de la culture skate, tu skates, etc. Il y a le côté pop, le côté soleil, machin. Bon, il y a tous ces éléments un peu, tu vois, à la fois visuels, à la fois dans les paroles et tout, qui sont drôles, décalés, plutôt poétiques, etc. Il y a même, après le premier album, il y a un morceau qui marche bien qui s'appelle Relax le Plexus, par exemple.
On peut s'écouter
un extrait parce qu'il est assez typique de ce côté léger, tu vois. On s'écoute et après, on continue la discussion. Même toujours cette petite mélancolie, cette petite douceur, tu vois. Mais c'est quand même léger, plutôt drôle, etc.
Ouais, lui, il en voit bien en live. Ouais. Ça me fait bizarre de l'écouter la version studio. Je suis là, putain, mais elle est où l'énergie là? Parce qu'en live, ouais, ça part vraiment.
Est-ce qu'il y avait à ce moment-là un risque conscientisé dans ta tête à toi d'être peut-être toujours catalogué comme ce mec un peu léger, poétique, loufoque, tu vois, et que ça soit un peu réducteur peut-être.
Qu'on prend pas trop au sérieux au final.
Ouais. Mais après, en fait, je sais pas, en fait, ça m'a pas trop dérangé parce que moi, les artistes que je kiffais ou les qui m'inspiraient, c'était un peu genre des je sais pas, tu vois, par exemple Nirvana, c'était des mecs genre en mode fuck le système, je m'en fous. Et
ouais, mais c'était plus un peu dans l'autodestruction, Nirvana, quand.
Ouais, mais du coup, ça faisait les gars aussi qui étaient pas au sérieux. Genre, je fais de la musique, j'en ai rien à foutre.
Ouais, mais.
Moi, quand j'étais jeune, en tout cas, je prenais le message comme ça, en mode, ouais, ouais, c'est des vrais révolutionnaires.
Ouais, mais tu vois, c'était comme, putain, un groupe comme Rage Against the Machine ou des mecs comme ça qui, ouais, étaient, tu vois, mais du coup, on les considérait pas comme des mecs
pas,
loufoques.
Pas,
tu vois.
En tout cas, pas, y a peut-être
ils sont, tu sais, ils sont en dehors de l'industrie, peut-être. Ils
entre
respectent
profondeur
pas
et légèreté, peut-être, c'est un peu, ouais, ça. Genre Nirvana, on pouvait vous considérer comme profond, même si en dehors du système.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est
toi,
vrai.
Peut-être, on peut dire, c'est léger. Et légèreté, pas toujours bien.
Tu sais, le risque d'être pris comme, je sais pas, un artiste, tu sais, où t'es pas, en fait, complètement d'accord avec l'image que les gens ont de toi. Parce que tu sais que t'es plus que ça, mais malheureusement, en fait, t'es dans ce truc-là. Et,
ouais, ouais.
Et...
Bah après, il y a aussi comment le projet a été vendu, peut-être comment, ouais, il a été amené. Et puis, en fait, je me suis rendu compte aussi, il y a pas si longtemps, en en parlant justement, bah, avec mes managers, en mode, je me disais, mais. Parce qu'en vrai, on en parle pas mal dans, en mode, une espèce d'incompréhension du projet, de genre. Parce qu'en fait, je rentre pas vraiment dans des cases. Tu sais, il y a un four un peu. Je suis un peu. C'est un peu un truc de cafard dans le truc. Genre, tu sais, en même temps, c'est de la musique hyper soft que, ouais, t'écoutes. Mmh. Genre smooth, tranquille, les gens font l'amour dessus, c'est cool. Mmh. Et après, en live, c'est le gros bordel. Et en fait, je pâtis d'une incompréhension d'un live qui est déjanté et qui marche, qui est taillé pour les festivals. Franchement, ça, je l'assume, ouais, parce que je pense que le live, c'est tout ce que j'aime faire dans la vie. Et genre, je mets des tartes à tout le monde et le live, il est costaud.
Ouais, parce que il faut préciser, toi en live, c'est tu cours partout, tu te mets à moitié, ah, à poil,
ouais,
c'est,
ouais,
la folie, quoi.
Bah
c'est...
ouais, ouais, non, mais c'est vraiment, c'est la teuf, venez à la marron. Non, mais ouais, c'est vraiment la teuf.
Mais du coup, t'as
c'est
des
très
gens.
Rock. Et ouais, du coup, t'as vraiment ce paradoxe. Et donc, il y a plein de programmateurs plein de gens qui sont là, vas-y, on comprend pas. Enfin. Mm. On va pas le faire jouer à tel endroit.
C'est pas ça qu'on a acheté à la base.
Ouais.
Oui, alors à l'inverse,
et en plus, il y a ce truc de pas sérieux. Ouais. Donc, ça fait plusieurs trucs pour se déchauffer, tu vois. Et donc, parfois, j'en parle, je me dis, mais je comprends pas, tout le monde va là, moi, j'y vais jamais, c'est quoi le délire? Et je me questionne, tu vois. C'est pas que je veux, c'est pas que je suis frustré, c'est juste que parfois, je me dis, bah, c'est marrant au niveau où on en est, tu vois, il y a quand même des trucs qui sont grave cool où je me retrouve, tu vois. À peu près à ma place, il y a pas mal de trucs, quoi. Je suis là, putain, mais je comprends pas. Et effectivement, j'ai compris. C'est que je me suis, comme tu dis, tu vois, genre, on prend un peu pour un rigolo parfois. Mais ça me dérange pas. Limite, je suis content que je rentre pas dans une case. Enfin, tu vois, j'ai aussi grandi avec Philippe Catherine à la maison qui tournait. Oui, parce que mon père en jouait, etc. Et donc j'ai des idoles qui me permettent de me rassurer par rapport à ça. Par contre, je me dis peut-être aussi, j'ai une timidité qui fait que peut-être j'assume pas certaines choses et donc ça manque de sérieux parce que du coup je me cache un peu par une autodérision,
une fausse légèreté ou...
Ouais, et en vrai je me suis dit ça l'autre jour, je me suis dit attends, sors de tout orgueil, toute malédiction humaine et genre regarde ton truc et je me disais peut-être que tout simplement je manque d'assumer certaines choses mais en même temps je me dis c'est ça la beauté, enfin en même temps trop chiant de tout le temps assumer en mode yo moi, je pose mes couilles, je suis énorme, nanana. Enfin, trop chiant en fait. Quand t'es dans une soirée, tu vois, trop la flemme de parler à un type comme ça. Tu vois. Donc, je me dis en même temps, c'est humain et c'est cool et je suis comme ça. Et peut-être qu'à un moment, ouais, je vais assumer des trucs. Ça va peut-être être plus deep, plus assumé dans un style. Et les gens diront c'est sérieux, mais ce moment-là, c'est que je serai prêt à le faire et peut-être je serai jamais prêt et je me cacherai par l'humour et tout. Mais en même temps, moi, l'humour, c'est pas non plus un masque derrière lequel je me marre. Je me cache, tu vois. Genre, moi, l'humour, pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, c'est la connexion directe avec les autres humains, quoi. Genre, j'adore le second degré. Je comprends pas les gens qui comprennent pas le second degré, d'ailleurs. Et pour moi, c'est un moyen de voir qui est dans ma team, tu vois. Enfin,
tu trouves que c'est facile à insérer, je sais pas comment le dire, mais à développer dans la musique l'humour. C'est un truc, c'est
je trouve que c'est facile, mais que ça peut être vite casse-gueule en mode Didier Super, c'est cool.
Ouais,
hein,
voilà,
mais d'un coup, tu passes dans un autre délire. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour moi, la musique, c'est quand même. Ouais, enfin, quand j'écoute de la musique, c'est pour avoir des émotions, etc. C'est vrai que.
En fait, je crois que c'est une.
Ça me ferait chier, en tout cas, d'être dans le potage. En fait, enfin, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et en fait, quand on dit t'es pas sérieux, je me dis bah attends, c'est sérieux, mais genre.
En fait, il y a un risque quand même d'être foutu dans une niche dans laquelle t'arriveras jamais à sortir.
Ouais, mais
à moins de faire ton chat au pantin pas. Comme Coluche, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Genre, ok, t'es
ouais, un. Tu deviens vite Fatal Bazooka ou.
Ouais, en fait, c'est vachement. En fait, c'est ultra.
Bah après, ça peut être bien de se faire un perso parce qu'au moins tu sais où tu joues et ça peut être rassurant d'avoir ce full perso que t'as créé de toute pièce.
Oui, mais ça veut dire que dès que t'es plus dans le mood de ce perso, faut t'en créer un autre.
Ouais, bah,
parce que les gens
ils
vont pas accepter
à,
que le perso
à,
change.
Je pense à Lorenzo. Ou...
Ouais, ouais, Lorenzo.
Bah
ouais,
tu m'as dit putain le pauvre. Enfin moi je pourrais pas. Parce qu'apparemment ouais c'est un gros perso quoi qui doit tenir. Mais il y en a plein des exemples comme ça. Il y a plein de persos.
Bah après
ça.
T'as des styles musicaux où quand ton perso c'est genre un gangster c'est plus facile à le tenir quand tu fais du peura tu vois tu ouais. Dis, mais c'est pas moi c'est lui tu vois SCH ouais. Ou des trucs ah, comme ça
mais on a tous un perso on se cache tous derrière des lunettes une grosse moustache
juste parfois enfin, plus ou moins visible
ouais voilà c'est ça mais
en fait le problème
moi,
c'est
moi en tout cas j'essaye de pas me cacher
ouais
mais malgré moi je me cache pas derrière plein de choses et peut-être que tu vois je me cache vers ce décalage mais en même temps c'est plus aussi c'est que ça me délire dans l'art c'est ce qui me plaît c'est ce décalage c'est ce petite dose d'humour ce enfin tu vois j'adore les Anglais pour ça enfin même les lives des Anglais c'est trop bien tu sais genre les mecs ils sont trop à l'arrache ils sont là et, tu sais ils te font une blague limite c'est un one man show hein, enfin tu sais quand tu vas voir des concerts un peu niche en Angleterre c'est, les mecs c'est trop drôle quoi je sais pas ils ont un autre rapport à la présentation des choses. Ce qui me dérange un peu aussi en France, c'est que c'est très, très propre, très.
Ouais, très cadré. Très,
très cadré et ça manque un peu de fun, je trouve.
Mais du coup, la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est
ouais,
genre ton public qui te connaît en écoutant ta musique à la maison, quand ils arrivent en live et où toi tu dis le live, il est complètement what the fuck, tu vois, c'est un peu destroy et tout. Est-ce que genre ils sont pris à contre-pied, ils se pètent la cheville en te regardant en live ou...
Non, ils sont surpris, mais agréablement surpris. À chaque fois, enfin, franchement. De plus en plus, j'ai des gens qui me disent que c'était le meilleur concert de ma vie. Et ça, quand tu l'entends plusieurs fois, franchement, tu t'en rappelles, du coup, t'es là, putain, mais c'est énorme. T'imagines, quelqu'un te dit ça. Moi, je me dis, c'est un truc de fou.
Ah ouais.
C'est un truc de malade. Et ça, je l'entends de plus en plus. Et je me dis, mais attends, c'est... Enfin, moi, pour que je dise ça à quelqu'un, c'est...
Tu le bosses, le live? C'est un truc que...
Ouais, je bosse énormément parce que, putain, je trouve ça dur d'être interprète. Genre, non, vraiment. Tu vois, genre, je suis... Ouais, ça me demande, genre, mec, ça demande un taf monstrueux. Quoi, tu vas, je pourrais jamais être musicien de studio.
Tu vas en résidence, tu fais, qu'est-ce que
non,
tu fais?
Non, je bosse chez moi comme un fou, là. Okay. Mais, ouais, du coup, c'est pour ça que le live, il est trop fun. C'est que ça peut, enfin, moi, parfois, j'oublie des trucs, ou genre, je me dis, ah, là, j'ai envie d'entendre ça, et je pars en impro, mais ça part, mais c'est foireux, mais c'est trop bien. Je sais pas, il se passe un vrai truc, et c'est un vrai échange entre le public et moi. C'est-à-dire que le live, il peut pas être créé tout seul. Enfin, genre si tu me demandes de jouer à la télé, ça va être horrible pour moi comme comme exercice
parce qu'il y a pas de répondant.
J'ai besoin besoin exactement comme dans une soirée, j'ai besoin de parler, faire quelques blagues, sentir que les gens ils sont bienveillants, que je suis bienveillant et que l'âme tu fais monter la sauce et là il se passe une folie. Et quand il y a le public qui réagit bien, le concert il fait que monter et c'est pas mal.
Et la dimension physique, la dimension du corps qui bouge dans l'espace scénographique etc.
Ouais, c'est de liberté, de trucs.
Ça c'est des trucs que tu as travaillé aussi ou...
Non.
OK.
Ouais, franchement, j'ai rien travaillé de tout ça. Il y a un vrai. C'est juste pour moi un moyen de se libérer, de se libérer des angoisses, de vivre un instant dans le réel. Ouais, je me sens bien sur scène. Je suis pas anxieux sur scène du coup.
Tu stresses quand même avant de monter sur scène ou...
Ouais, il y a des concerts qui me font un peu plus stresser que d'autres, mais.
Ouais. Globalement, tu le vis bien. Enfin,
je bosse grave. Bon, ouais. En fait, moi, je suis quelqu'un d'anxieux, donc je dois bosser mon anxiété tous les jours. Donc, c'est lié un peu avec la scène et des moments de pression. Mais ouais, on en parlait tout à l'heure de ce truc d'aller au bout de tes limites. Et à un moment, je suis allé au bout de mes limites, justement, sur ce deuxième album où ça devenait plus sérieux. J'étais encadré. J'ai eu une pression qui commençait à arriver.
Et là, c'était plus la même.
Ouais, et à un moment, j'ai fait vraiment un burn-out. Genre, c'était horrible. Ouais. Je suis fini à l'hôpital. Genre, j'étais en train de chanter avec Philippe Catherine. Et 3 heures après, mec, j'étais à Lariboisière.
Tu sais quoi?
Parce que les mecs me faisaient des...
Les intraveineuses.
Non, les mecs me faisaient de la moelle épinière qui ressortait pour savoir si j'avais pas une hémorragie du cerveau.
Ah ouais, un truc grave.
Mec, c'était horrible. J'ai cru que j'allais crever, quoi. Après, j'étais content. Je me disais, au moins, je viens de chanter avec Philippe Catherine.
Alors, attends.
Mourir, cool.
Parce que là, il y a beaucoup trop de choses. Donc, en 2022, sort Tout autour de nous, qui est donc ton deuxième album, sur lequel, effectivement, t'as un featuring avec Philippe Catherine, un morceau qui s'appelle C'est dur. Bon, il y a aussi un featuring avec Jacques. C'est les deux, vraiment, de featuring de l'album. On va s'écouter un extrait de C'est dur avec Philippe Catherine, et tu vas nous parler, effectivement, de ce truc de la santé, du moment où t'as senti que, là, t'es allé un peu trop loin. Mais on s'écoute d'abord un petit extrait, et ensuite, on discute de ce sujet.
C'est dur de rester soi-même quand on peut être quelqu'un d'autre. Est-ce que si je meurs trop sûr d'être toi. Vous êtes combien toi? Non, tu ne sais pas. Quand je chante cette mélodie-là, suis pas sûr qu'elle soit à moi. Mais c'est moi qui chante ça, et nul autre que moi. C'est dur de rester soi-même.
Bien.
Et en vrai, bon, déjà le morceau est trop bien. Alors il va falloir qu'on parle de la production parce que je trouve qu'il y a eu un cap quand même technique en termes de mix, de production. Ah ouais, ça sonne par rapport au premier album, je trouve.
C'est le mix.
Ouais. Ah ouais, mais moi, ouais, mais c'est deux ambiances. Ah pour ouais. moi, c'est pas ouais. mieux ou moins bien, ouais. c'est juste deux styles quoi.
En tout cas, ce que je veux dire déjà, c'est dur de rester soi-même quand on peut être quelqu'un d'autre.
C'est littéralement notre conversation. Donc
Déjà, ouais. et puis en fait, ouais, je trouve que c'est une phrase hyper profonde, hyper intéressante en fait. Derrière sa petite naïveté et légèreté ouais. et tout. Mais tu voulais, parce que tu parler de santé comme ce qui est un point hyper important et après on pourra rediscuter un peu des aspects artistiques de l'album. Mais ouais, donc t'as senti à un moment que ce métier était un peu trop poussé.
Mais j'avais noté cette phrase sur mon iPhone, je pense, parce que justement j'étais là ouais, en fait ça répond pas du tout à tes questions.
Non mais vas-y, t'as
même non mais je me disais vas-y. Dur justement de parce que je veux rester moi-même et en même temps il y a un truc schizophrénique où avec en tant qu'artiste avec Miel de Montagne, quand j'enfile ce costume, que t'es dans des... On te met dans une situation où c'est très dur de rester toi-même parce que t'es genre, je sais pas, on te sort le tapis rouge, on te demande d'être quelqu'un, tu te rends compte que t'as la pression, t'as un micro, tu dois parler, t'as des interviews. Quelle attitude j'adopte, tu vois? Est-ce que je suis genre full moi-même, mais du coup ça vend pas de rêve? Est-ce que genre je sors la meilleure vanne? Franchement, j'étais dans ce moment où j'étais en train de juste expérimenter des choses et mais ça me rendait pas mal anxieux aussi. J'étais ah putain, mais comment on fait pour
mais en fait c'est pas toi, je pense que c'est surtout le regard des autres sur toi qui
ouais
fait
c'est ça,
toi tu vas t'adapter à ce que les gens attendent finalement.
Oui, mais en plus il y a une pression, tu sais, parfois tu vois pas les à côté, mais genre tu sors d'une interview ou d'une promo où t'as un peu chié. Laisse tomber, l'équipe elle est là, par contre frérot c'est dégueulasse, enfin, et toi t'es là, tu te sens vraiment comme une merde et genre t'es saoulé, tu perds confiance en toi, tu te dis ah mais c'est fini pour moi, ma carrière s'arrête, enfin moi en plus je suis vraiment genre c'est tout rien, tu sais, je suis un enfer, du coup genre c'est genre soit je suis en dépression soit je suis l'homme le plus heureux du monde, il y a jamais de milieu. Et du coup quand ça va mal, ça va, c'est vraiment drama queen et je me fatigue de fou mais
c'est
voilà,
bien d'en être
et
conscient
coup,
déjà.
Non mais c'est l'intensif, je suis quelqu'un d'intense et du coup l'intensité des émotions elles vont avec et je dois vivre avec ça, mais c'est cool hein. Mais juste il y avait un temps d'adaptation et je pense qu'à ce moment-là je maîtrisais pas tout. J'avais beaucoup de pression, j'avais des enjeux, tu vois, mes premiers Trianon, on m'attendait, c'était le deuxième album, je me suis mis la presse de fou parce que je sais pas parce qu'en fait justement le premier il commençait à faire des petits bébés, les gens attendaient un truc, t'avais sorti de Covid donc on avait tous la dalle que ça reparte. Moi, j'avais plutôt des bons signaux. J'avais nouveau manager, j'avais nouveau tourneur, tout était nouveau. Mon label commençait à changer, donc plus pas surprise, machin. Donc il y avait vraiment un truc un peu ambiance adulte, ambiance prouveur, ambiance mec, ça y est, t'as marché, tu dois prouver maintenant. Moi, c'était un moment où genre, j'étais encore un peu en mode ouais, c'est cool, je fais de la zik, frère. Non, en fait, là, je commence à avoir l'argent, je me dis ah ouais, ok.
On t'attend quoi.
Ouais,
vraiment,
j'ai pas envie de revoir les 100 € sur mon compte. Là, je commence à avoir un tout petit peu de... Tu vois, j'étais intermittent et tout. Donc, j'étais là, putain, cool. Je peux m'acheter 2-3 synthés. Ça fait plaisir et tout. Et donc, j'étais en stress. J'étais en stress de ouf.
Et ça t'a amené vraiment, tu disais, à cette
année à l'hôpital.
Et du coup,
ouais, j'étais en méga pression. Et j'étais avec une équipe qui était assez compliquée quand même. J'étais avec une équipe. Du coup, je gardais l'ambiance pote avec mon équipe. Les gars du début. J'avais rajouté des gars qui étaient plutôt des amis à la base que des musiciens pros. Et donc, en fait, il y avait un truc un peu genre, fallait faire avec les défauts des autres. Et ils avaient aussi pas une emprise du tout sur moi, mais juste un rapport qui était moins professionnel. Mais parfois, le rapport professionnel, il te permet de souffler parce que t'as un cadre, chacun fait évolue dans son
limites.
Cadre. Et ça fait du bien pour tout le monde parce que quand chacun fait du bon travail, tout le monde est trop heureux. Là, du coup, il y avait plus des trucs un peu d'ordre amicaux.
Ouais, perso,
ouais. Ouais, et du coup, en fait, ça complique. Quand un gars te dit un truc, ça te chafouine. Il y a des trucs d'égo. En fait, il y avait des problèmes d'égo dans mon équipe, ce qui faisait que moi, j'aime bien que les gens soient bien. Mmh. Et du coup, à l'époque, j'étais en mode sauveur. Je voyais qu'un gars allait pas bien. J'étais, ah, ça va, qu'est-ce qu'on peut faire? Limite, moi, ça pouvait me mettre à défaut, mais je me mettais à la place de l'autre en mode, le pauvre, il va pas bien. Je vais me rabaisser, machin.
People pleaser.
Ouais, je me faisais niquer, quoi. Parce que du coup, moi, j'avais toute la charge mentale qu'il n'avait pas. Donc, l'équipe, ça, je pense que ça a amplifié de ouf la pression que j'avais, du coup, de mon équipe. Et que je me suis mis aussi tout seul, mais normal, t'as envie de faire bien. Et ouais, t'avais le tourneur qui était là, faut remplir, mec, nanana. Enfin, et ça, tous les artistes le connaissent, ce truc de cette pression, parce que commence à y avoir un peu d'argent sur ton projet, et dès qu'il y a de l'argent, c'est la merde, mon gars. Donc dès qu'il y a de l'argent, c'était horrible, et ouais, je suis allé au bout de mes retranchements, et à un moment, je suis tombé, et ouais.
En plein concert?
Ouais. En fait, genre, je me suis écroulé parce que, genre, grosse tournée, et je me suis écroulé au moment du Pigeon, qui est un morceau hyper rock. Mmh. Et genre, je fais un headbang comme ça, là, et genre là, je sens que ça se décroche. Et je me dis, oh! Et je vais voir mon batteur, je me dis, je me suis pété une cervicale, mec. Mais tu sais, en marrant, tu vois. Mmh. Et je me dis, mec, j'ai tellement mal au crâne, je vais mourir. Et il me regarde, il entend rien, il est là, c'est énorme, mec. J'adore ce que tu fais. Et genre, et en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'avais un skater, un pote skater, Victor Cascarini, qui est dans le clip du Pigeon, qui est un boss, et qui est arrivé sur une rampe, qui me sautait par-dessus pendant que je faisais le solo. Tu vois. Et donc, tout le monde s'écartait. Bam, il arrivait en skate au-dessus de moi. Donc, mon manager, il devait me prendre et me poser avec mon régisseur et tout. Enfin, il devait me poser et me remonter sur scène. Et je lui dis, mec, je peux pas faire le Pigeon, je vais m'évanouir. Et pareil, il me regarde, il me fait, c'est énorme, mon gars. Genre, c'est maintenant, mon gars. Tout le monde crie ton nom, let's go, le solo. Tu vois. Et genre là, je me fais le solo. Mec, je sais pas comment je tiens. Genre vraiment, j'avais l'œil qui tournait. Tu sais, j'avais super mal, je comprenais pas. Et bref, il fait le saut, je capte rien. Il me remonte. Et en plus, c'est horrible parce que tous les gens, du coup, ils se remettent en pogo après. Mmh. Et moi, je me rends le micro dans la gueule comme ça. Tu sais, parce que j'étais dans la fosse, tu vois. Ah ouais. Je dis à Chet, mon manager, je dis, remonte-moi, mec, je suis trop mal, trop mal, trop mal. Et donc, je finis le truc, je sors, et là, je m'allonge par terre, et je suis en mode, les gars, je peux pas remonter sur scène, je vais trop mal. Donc, ils me donnent des ibuprofènes, ils me foutent de la glace, ils me mettent des claques, ils me disent, mec, faut que tu y retournes, tout le monde scande ton nom. Il y a le rappel, machin. Mmh. Et moi, sur le moment, je dis, les gars, je sais pas si je peux le faire. Et genre, je dis, les gars, je sais pas, je me sens vraiment mal, j'ai l'impression que c'est dangereux, tu vois. Mmh. Et je dis, et à un moment, je dis, vas-y, fuck off, au pire, je meurs. Genre vraiment, j'ai premier degré, je me dis ça, tu vois. Je me dis fuck off, au pire, le concert, c'est un des meilleurs concerts pour l'instant de ma vie.
J'y vais. La légende, quoi.
Mais en vrai, je pense pas que j'étais drama, je sentais que c'était quelque chose de. Enfin, c'était pas genre, yo, tu t'es fait mal au cou, quoi. Enfin, je sentais un truc un peu genre, je me dis c'est trop bizarre. Vraiment, j'avais ultra mal au cou et tout, enfin, à la gueule et tout, quoi. Et du coup, je me dis vas-y, j'y vais. Et en fait, parce que je pense l'effet du médoc, enfin, je sais pas, il y avait un truc où je me. Sous la pression, tu sens plus rien, tu sais, là, vas-y, j'y vais. Donc là, j'arrive sur scène, vraiment, je pleure. Je chantais le morceau, je pleurais, donc tout le monde pensait que je pleurais de bonheur. Je pleurais de bonheur, de douleur, enfin, c'était trop bizarre. Mais c'était un moment assez beau. Genre, j'étais vraiment dans les vapes, je pleurais. J'étais là, les gars, je vous chante l'after, c'est énorme. J'étais avec les gens comme ça.
C'est un morceau, l'after.
Ouais, et voilà. Du coup, c'était le rappel et je me casse. Et là, mes parents, ma mère, hyper inquiète. J'étais dans la baignoire comme ça, j'étais là, les gars, j'étais trop
mal.
T'as fait quand
même, t'es allé jusqu'au bout du concert.
Ouais, mais en fait, l'ibuprofène, il me calmait un peu. J'avais super mal au crâne. En fait, j'avais une migraine, mais j'ai jamais eu une migraine comme ça de toute ma vie. Et je me dis, mais c'est trop bizarre. Et je me dis, bon, bah, peut-être c'est juste une migraine méga, méga vénère, tu vois. Donc, je bois du champagne, au final, ça me fout la gerbe direct. Ça me fout la gerbe direct, donc je bois pas, en fait. Je profite pas. Il y avait un after show et tout. Je profite de rien, c'était horrible. J'étais là, putain, c'est horrible, c'est le meilleur moment de ma vie, je peux rien faire, tu vois. Donc je retourne dans mon hôtel en mode la dépression, genre tout seul, tout le monde faisait la teuf, moi j'étais solo, je rentre à l'hôtel en mode galère.
Il n'y avait pas plus de gens que ça inquiets dans ton entourage quand même en mode bah c'est
en fait,
pour
truc,
toi
c'est
la fête
que moi,
là.
Le truc c'est qu'aussi j'étais dans une période où j'étais vachement en fait sous l'effet de la pression, j'étais un peu tout le temps malade et donc j'étais vachement hypochondriaque, j'étais tout le temps en mode ouais, un peu comme Pierrot qui crée au loup et donc les mecs ils étaient là ouais c'est encore un truc ouais. Genre ouais mec j'ai mal au ventre, j'ai la chiasse, enfin tu vois, les gars ils y croyaient plus je crois, enfin je me dis il y a de ça qui joue un peu, parce qu'à force de répéter, mais parce qu'en fait j'étais tout le temps sous pression, donc tout le temps un peu mal, tu vois.
Ce qui est intéressant. Bon, alors donc tu finis à l'hôpital, etc. Bon, ça s'est bien passé ensuite quand même.
Mais le problème c'est que sur scène, je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc en fait tous mes soucis s'en vont. Et après le concert, je suis là les gars, c'est énorme et tout. Et le lendemain, boum, l'anxiété revient, j'ai mal. Je suis là, ah mec, j'ai mal à la gorge, j'ai une crève. Nanana. Enfin, tu sais, c'était un peu le. Mais parce que j'étais trop sensible, je m'écoutais trop, j'étais trop sous pression, j'arrivais
et,
pas.
Et juste donc pour ta santé. Ouais. Après à l'hôpital, ça a pu se régler, etc.
Et du coup l'hôpital, ils me font tous les tests parce que les gars, c'était affreux, mec. J'étais à la Riboisière, j'étais à côté d'un mec qui était un des plus grands brûlés de France, qui genre vraiment insultait les infirmières. Et genre c'était horrible. Et il m'adorait. Et du coup il me faisait hyper peur parce que j'étais là mais ce mec va me tuer et tout. Et en même temps il était là ouais, je t'aime bien toi, ouais, c'est tous des enculés. Et, tout. et après désolé pour le langage, mais genre du coup genre c'était terrifiant. Et il était fier d'être des plus grands brûlés de France. Et apparemment il buvait genre 3 bouteilles de pastis pur. Oh, par jour. Et c'est pour ça qu'il était là. Il disait, ouais, je comprends pas pourquoi je suis là. Et l'infirmière lui disait, ben monsieur, vous buvez 3 bouteilles de pastis dès le matin, en fait, je comprends pas. C'est normal que vous soyez là. Il était là, ouais, c'est des incapables et tout. Et moi, j'étais là, genre, ah, oui, oui, bonjour. Et du coup, je devais pisser dans un récipient à côté de lui pour faire mes analyses. J'étais là, ouais, salut. C'était horrible, la situation, elle était affreuse.
Mais il soupçonnait quoi, du coup
Et en fait, genre, ils avaient peur qu'il y avait une hémorragie interne parce qu'ils savaient pas pourquoi j'avais autant mal à la tête et que c'était arrivé d'un coup. Et c'est horrible parce qu'elle me dit, ouais, on va vous faire un prélèvement dans la moelle épinière.
Ouais, ponction lombaire.
Ponction lombaire, ouais. Le pire truc au monde.
Ouais, ça fait mal.
Ouais. Et genre, ouais, là, c'est vraiment, j'ai vu la lumière blanche et tout, c'était affreux, quoi. Et genre, surtout, genre, ils te mettent ça pour voir si t'as du sang dans la moelle épinière, ce qu'elle veut dire que. Et elle, vu que c'était un peu rosé, elle s'est inquiétée en mode, il y a du sang dans mon cerveau, quoi. Et donc là, c'était horrible parce qu'en fait, moi, je regarde sur Internet, je fais mes.
Ah, mais ça, faut pas faire.
Ouais, hémorragie interne, en fait, tu meurs 24 heures après, tu vois. Donc j'étais en pleurs. En plus, je relâchais toute la pression, donc j'étais en pleurs, j'appelle ma famille. Enfin, c'était vraiment un moment terrifiant. Mmh. Et au final, je passe la nuit avec à la Riboisière. Et il y a un médecin assez jeune qui vient me voir et qui me dit « Ah ouais, vous avez rien, vous pouvez partir. Vacances forcées, au moins 3 semaines, vous faites absolument rien. Mmh. » Et la migraine, elle va passer, vous prenez des trucs codéinés, machin et tout. J'étais là « Ah bon, mais j'ai quoi ?» et tout. Il me dit « Bah, je sais pas. Vous voyez ça comme un burn-out, quoi, parce qu'il n'y a pas d'explication en fait rationnelle. En tout cas, il n'y a pas de danger de mort. » Et il me dit au passage, c'est marrant, je devais venir vous voir hier, j'ai pas pu. Le mec était fan, donc il me prend un autographe et il se barre. Donc déjà moi, en plus, franchement, je suis pas grand, enfin je suis pas connu, les gens me reconnaissent pas trop parce que je fais beaucoup de dessins et tout. Ouais. Donc je suis cool par rapport à ça, tu sais, je me fais pas trop demander dans la rue et tout. Et là, je me dis mais quelle coïncidence. Du coup, je lui dis bah je t'invite à la prochaine parce que tu m'as sauvé quoi.
Bah, en tout cas, ce qui est intéressant là dans toute cette histoire.
Mais du coup, vacances forcées. Pour finir, juste vacances forcées. J'ai eu une migraine pendant une semaine et j'ai rien fait pendant 3 semaines. J'ai annulé toutes les dates que j'avais après. Ouais. C'était la première fois de ma vie que j'ai annulé des dates.
C'est
la dernière fois. D'ailleurs.
C'était compliqué d'annuler des dates. C'était compréhensible.
Ah, j'étais triste à mourir. J'étais triste à mourir parce que je l'avais jamais fait.
Etc. Le tourneur.
Ouais, je me sentais vraiment. Et puis en plus, j'aimais pas cette situation de genre le pauvre. Enfin, tu sais, genre j'aimais pas me sentir genre.
Ouais, la pitié.
Faible. Ouais, j'étais là. Mais non, je suis une machine, tu vois. Ça me saoulait vraiment à ce moment-là. Genre, j'étais pas bien. Parce que justement, pour engendrer toute cette pression, je m'étais mis en mode je suis une machine, je vais encaisser, mais en fait pas du tout mon gars, je suis genre la pire victime du monde quoi. Et je suis beaucoup trop sensible pour ce truc, donc j'ai dû après apprendre de cette erreur et ouais, j'ai pris un coach mental, enfin un coach en bouffe et tout, en nourriture.
Okay.
J'ai pris une psy, enfin j'ai vu une psy, ça fait 2 ans que je la vois, 2-3 ans. Et ouais, j'ai commencé à faire de la méditation, j'ai commencé à faire du sport aussi. Énormément de sport pour m'endurer. En fait, je me suis dit, bah mec, en fait, c'est un métier de soldat. En fait, c'est un métier de grand athlète.
Une dimension physique.
Ouais, que j'avais pas réalisé. J'étais là, je peux plus boire des bières, chiller et tout. En fait, moi, je suis jaloux de ces mecs qui peuvent se démonter la gueule parce que moi, je peux pas.
Ouais, mais c'est la façon que t'as de. C'est parce qu'aussi tes lives à toi, ils sont particulièrement énergiques, tu vois.
Ils sont intenses et puis je pense que je vis tout intensément et du coup, les mauvais côtés aussi, ils sont intenses. Et en fait, je me suis dit, bah mec, faut que je sois un soldat en fait. Donc, mec, j'ai pris un coach sportif, j'ai fait un entraînement pendant un mois méga hard. Je me suis fait toute ma base musculaire. Donc c'est pas mal parce que je me suis trouvé beau et tout. Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant en fait? J'ai loupé ma jeunesse. Et du coup non mais en vrai ouais j'ai kiffé. Je me suis endurci mentalement et physiquement. Et la tournée d'après, donc vraiment j'étais préparé. Et pareil coach de la voix. Et j'ai appris à avoir des sas de décompression. J'ai vraiment mais comme un grand athlète qui va faire les JO. Genre ça s'entraîne, ça se prépare. Et même là, tu vois, je suis pas en tournée, mais ma voix, je continue de la travailler un peu. Mmh. Et je continue à faire des pompes, de l'entretien physique toujours. Toujours. Je m'arrête jamais parce qu'en fait, si demain j'ai un concert, il faut que je sois prêt. Et si t'es pas, en fait, tu subis et tu. Parce qu'avec les transports, la pression, des. Enfin. Mmh. C'est un travail. Non, mais c'est un travail de grand athlète, en tout cas.
C'est très intéressant et très important la discussion qu'on vient d'avoir pour plusieurs choses. Déjà, on voit que c'est un métier qui pousse. Alors, en fait, il n'y a personne à pointer du doigt, entourage, machin, etc. Parce que l'artiste lui-même, parfois aussi. Globalement, on est dans une atmosphère où tout le monde se dit, on a de la chance d'être là, c'est la musique, c'est cool, on pousse. Sauf qu'en fait, il y a un moment où ça craque.
En même temps, tout le monde a envie de pousser. Moi, le premier, tu vois. J'étais là, ouais, je te le fais. Tu vois, mais.
Et sauf que ça, c'est pas sain. Parce que c'est pas assez cadré, c'est pas assez, il n'y a pas assez de professionnalisme. Et typiquement, ce professionnalisme, il passe par quoi? La démarche individuelle. Enfin, ce que t'en penses, hein, mais que toi, tu as faite, à savoir de prendre des coachs, des machins, d'être entouré, de faire attention à ta santé mentale, physique, etc. En fait, c'est le cadre professionnel et l'entourage qui devrait en partie l'amener. Des gens qui connaissent ça, qui savent les risques.
Après, ils m'ont aidé. Mon tourneur m'a aidé. Après ça, justement, ils m'ont présenté, justement, le coach d'alimentation, justement, tous ces trucs-là. Ils m'ont un peu.
Mais en fait, c'est pas pour pointer tout. Pas en tout cas précis, mais je veux dire, de manière générale, ce métier, en fait, les artistes devraient avoir conscience de ça et on devrait les accompagner sur ces sujets. Et j'ai l'impression, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent autour de ça, etc., qu'il y a quand même des déficits, il y a un déficit autour de tout ça, tu vois.
Ben, ouais, mais encore une fois, ça concerne aussi un certain type d'artiste.
Mais je suis pas sûr. En fait, le truc, c'est que.
Tout le monde, les tournées, c'est dur.
Non, la pression mentale, en fait, je suis d'accord, mais tu vois, le physique.
Physique, ça peut. Ouais. Physique, c'est différent, mais.
Tu sais qu'il n'y a pas seulement courir. Pardon, je t'interromps. Il n'y a pas que courir sur scène, etc. Effectivement, la dimension athlétique de ton live, mais il y a juste le fait d'être en horaire décalé, de changer. Ouais, tous les jours, reprendre le bus, changer de machin.
Ouais, ouais.
Tu dors parfois dans un truc où il y a 10 personnes avec toi, machin. Enfin, ça te pousse à bout physiquement, quand même.
En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert. Parce que moi, je me disais, mais attends. Enfin, la pression, elle est pas là, parce que à mon niveau, c'est pas possible d'être en mode déjà aussi dans une intensité telle quelle, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, parce que moi, je me considère pas à gros niveau comme des mecs comme Orelsan ou quoi. Enfin, c'est sûr, c'est évident. Mais même à un petit niveau qui est le mien, genre, je me suis dit putain, l'intensité du truc, genre, c'est un game en fait. Genre, ouais. Je me dis ouais, c'est ouf, et du coup il y a des artistes, ouais, je les comprends, mais en fait là où c'est problématique, c'est que chacun a sa sensibilité et il y a des gens, peut-être ce sera plus chill que d'autres, l'équipe dans laquelle t'es hyper important, l'entourage, enfin tu vois la tournée que j'ai eue, c'était trop bien parce que bah justement j'ai appris de mes erreurs, là je travaille avec des gens genre c'est vraiment des amours et il y a vraiment une communication très fluide, enfin. Et tout ça, j'ai réajusté. J'étais là, ah, mais mec, mais je travaille plus. Dès que je sens un petit truc un peu négatif, ça dégage direct, en fait. Parce que j'ai plus envie de me retrouver dans un truc, similaire. Et il y a plein de trucs qui jouent, mais il y a beaucoup l'entourage, en tout cas, je pense.
C'est aussi le fait que toi, t'es vraiment un one-man army. C'est-à-dire que tu fais tout.
Et c'est ça aussi.
De la compo à la DA, machin. Ouais. Et donc, tu peux te reposer sur personne, en fait.
À ce moment-là, c'était un peu dur parce que je devais faire les visuels tout en tournant, tout en finissant un morceau. Enfin, du coup, en fait, je me foutais des casquettes. Là, aujourd'hui, je suis plus en mode, bah, mec, genre, fallait me le dire avant. Ou genre, en fait, je suis plus en mode, vas-y. En fait, c'est plus aussi, je pense que là, c'est plus stratégique, c'est pour ça là maintenant je suis plus j'ai plus travaillé en mode stratégie pour savoir les points d'échéance pour prendre de l'avance, parce que en fait vu que je fais tout, si je prends pas de l'avance je suis dead, en fait, parce que le moment de la sortie ils sont là, ouais, elle est où la cover, en plus eux ils sont genre, elle est où la cover, frère, le track qui sort demain, et toi t'es dans un triple jeu, attends, je suis en train de jouer Gildas, je t'envoie ça demain, tu vois. Et c'était ça la live que j'avais, quoi, j'étais là et tout, genre c'était horrible. Et là aujourd'hui quand il y a des moments, enfin il y a moins de moments de pression. Je me fais plus aider aussi par mon label.
Parce que tu t'organises mieux.
Puis je me fais plus aider sur tous les trucs un peu genre superficiels, de graphisme, ou même parfois de posts, réseaux sociaux. Tout. Je fais, ah, vas-y frère, fais-le. Moi j'ai pas le temps, en fait. Je dois te faire le son. Enfin c'est dur, quoi.
L'importance de déléguer parfois, effectivement.
Mais c'est ça, ouais.
Mais t'es obligé de toute façon à un moment, même à petit niveau, tu vois, je me rends compte aujourd'hui.
Mais tu dois quand même passer par un point dur, tu vois. Tu peux pas arriver à cette réalisation-là sans avoir pris un mur dans la gueule avant. C'est ça qui est assez.
Parce qu'il n'y a pas assez de pédagogie, à mon avis, autour de ces questions.
Après, tu sais, c'est aussi l'ego, l'orgueil. Tu te dis, je suis fort, j'ai envie d'y aller. Tu vois les autres tu vois les autres suivre ce rythme, tu dis bah pourquoi pas moi. Et puis tu sais, à ce moment-là, tu l'as, t'es là, genre vas-y, tu vois l'évolution de ton projet, tu dis c'est pas le moment de lâcher, j'y vais à fond, tu vois.
Il y avait personne dans,
tu te rends pas compte, vraiment,
dans l'entourage qui disait peut-être tu devrais un peu lever le pied ou vas-y mollo ou...
Non.
Ouais.
Tout le monde est dans l'excitation, dans le truc.
Mais non, mais parce que toi tu communiques pas ça non plus, enfin toi t'es trop à fond. Quand on te demande c'est cool, t'es là mec c'est énorme, là je viens de jouer je sais pas où, enfin tu vois genre t'es comme un ouf, enfin moi je m'en rendais pas compte. Ouais, je...
Milan, Miel, avant de parler du troisième album,
qui part en deepness là.
Avant de parler du troisième album, du dernier en date,
ça fait une journée qu'on est là les gars, c'est un délire.
Un autre morceau quand même de Tout autour de nous, hein, qui te tient à cœur, je sais pas, celui que t'aimes bien, qui...
Je sais pas.
C'est vrai? Parce que je sais pas, moi, on a déjà écouté un featuring, celui avec Philippe Catherine, donc on va peut-être pas écouter le tuto qui est avec Jacques, mais qui est un morceau hyper cool. Moi, j'ai mis de côté, il y a Trop vite, il y a Jusqu'à l'aube, il y a Tomber sur toi, il y a On verra demain, il y en a plein de morceaux qui sont cool.
Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein, franchement, je sais pas quoi mettre, moi.
C'est vrai.
Franchement, je suis mauvais pour les playlists, là.
Et bah, à la limite, on pourrait illustrer Trop vite, quand les choses vont trop vite dans la vie.
Ouais, Trop vite, c'est un bon morceau.
On peut écouter ça. C'est un peu lié à mine de rien ce que tu as vécu, quoi.
Exactement.
En fait, tout est là.
Anecdote, genre ouais. Le premier, tu vois, j'étais vraiment en mode ordi Ableton clip, sortais de la house, donc je modifiais un peu tout, parce que je kiffe, enfin j'adore hein, les batteries justement très précises et tout, ouais. Et au contraire là j'étais en mode vas-y, j'ai envie de me prouver que je peux jouer tous les instruments, ouais. Donc là vraiment il y a du Prophet 6, vraiment je jouais les parties, il y avait très très peu de midi sur cet album, et les batteries je les ai faites chez moi, toujours dans le même endroit. De toute façon j'ai fait mes trois albums au même endroit, chez mes parents là, dans ce vieux presbytère qu'ils ont retapé, et donc je m'étais chauffé à enregistrer, et donc j'ai fait venir mon batteur qui a refait toutes les maquettes en fait à la batterie, et tout le reste j'ai enregistré en live et tout.
Et les riffs de guitare là, c'est quoi, c'est du VST ça ou...
Ah non, mais c'est moi qui fais la guitare.
Ok.
Ouais, d'ailleurs sur scène je chante et je joue de la guitare.
Mais effectivement c'était quoi, micro, tu repiques de ton ampli?
La guitare?
Ouais.
Non, en vrai j'ai toujours bossé qu'avec des guitares en DI.
Ouais.
Donc ampli virtuel, et là en plus c'est la Wawa, j'avais tellement en mode flemmard que j'ai mis l'autofiltre double tone.
Ok.
Ça sonne bien, en vrai. Après le truc c'est que cet album, en vrai vu que j'ai tout fait tout seul, les prises de son de batterie c'était dégueulasse. Et heureusement il y a Alf Bria,
ingénieur du son.
Ouais. Stéphane là, qui a sauvé le truc quoi. Il a fait un super mix sur les drums parce que putain on partait de loin quand même.
C'est lui qui a mixé tout l'album?
Ouais, c'est lui qui a mixé tout l'album. En
et
fait,
il n'avait pas fait le premier.
Non. Ouais. Le premier c'est Sébastien Sodasand, et du coup je suis revenu avec lui pour le troisième album justement.
Parce que oui, il faut
parce qu'en fait c'est un gars de ma génération, ouais. et on se connaît vachement bien. Du fait de la première expérience du premier album, j'avais envie de revenir avec lui au troisième album.
Et puis, pour le fun. Tu disais que tu avais découvert Sébastien Tellier, etc. Là, tu parles de Alf. Alf, c'est justement un ingé son qui a énormément bossé avec toute la French Touch, avec Phoenix, avec Sébastien Tellier, etc. C'est quelqu'un de très réputé.
Et en fait, j'ai rencontré Alf parce qu'on a fait ce titre avec Philippe Catherine. Il nous fallait un studio. Et donc, la veille, ils me disent ouais, tu vas à Paris en studio enregistrer avec Philippe, qui m'envoie son mémo à l'iPhone de son couplet. Et je lui dis, mais il y a deux couplets. Il me fait, je l'écris pour demain. J'arrive au studio, bouteille de vin blanc. Et j'étais au lasso en train de l'enregistrer, genre refait là et tout. Et j'étais dans le studio de Stéphane, de Alf, quoi. Et du coup, j'arrive dans ce studio et genre, il y a Alf et on s'entend hyper bien. Et il kiffe le son. Et je lui dis, ouais, j'en ai d'autres. Il me dit, bah, fais écouter. Et puis au final, je lui dis, tu veux faire l'album? C'est là où, tu vois, il y avait tous ces trucs aussi, de bosser avec Al, d'avoir un nouveau manager, de faire avec Philippe Catherine. Ça a commencé, tu sais, à s'intensifier.
Oui,
à s'intensifier.
De...
Ouais, je me disais, ah, oh, je suis en train de passer un peu.
Un palier.
Un palier. Et ça, c'est ça aussi qui a amené aussi peut-être toute cette pression autour du deuxième album. Donc,
mais alors, du coup, lien logique. Quand t'arrives, donc avec tout ce qui t'est arrivé sur le deuxième, l'idée du troisième, ça va, c'était un truc relax quand même ou...
Ah putain, le troisième, c'était tellement relax, mec.
C'est vrai?
Ouais, ouais, c'était hyper spontané.
Du coup,
je
il y
l'ai
avait
fait
zéro
en trois
presse.
Mois. Je l'ai fait en trois mois, le troisième.
Ah ouais.
Vraiment trois mois. Genre, je me suis mis, trois mois plus tard, c'était fini, mixé quatre mois après. Avec Seb, on l'a mixé hyper rapide aussi. Tout s'est fait hyper spontanément, parce que j'étais là, vas-y... Il faut que j'arrête de me prendre la tête, en fait. on va se poser des questions.
On va s'écouter des extraits de Ouin Ouin, donc ton album sorti en 2025, ton dernier, le troisième, dont parlait Daz.
Ouin Ouin Deluxe.
Comment, pourquoi pas, effectivement, de la version Deluxe. Comment expliquer, par contre, moi, j'ai vraiment ce truc de, je trouve, les sons de batterie, les sons de guitare, etc. Alors, encore plus sur le troisième album, mais que, globalement, je trouve que ça sonne de plus en plus produit, de plus en plus fat, etc., tes albums, je trouve, en particulier
plaisir,
par rapport au premier. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une question de moyens, du temps passé dessus, de DA, tout simplement, en disant, vas-y, avant, je voulais avoir un son peut-être un peu plus lofi, enfin, lofi, j'exagère, mais en tout cas, un tout petit peu moins produit, moins hyper large, moins gros, tu vois. Je sais pas, c'était des discussions, c'est un truc que tu ressens aussi.
Non, vraiment, je me suis pas posé la question parce que je fais de la musique. J'ai toujours fonctionné de la même manière, quoi. Genre, mon Ableton, un petit clavier MIDI, je pose les maquettes, je réenregistre quelques trucs avec. J'ai peut-être un peu plus de synthé analo aujourd'hui, tu vois, mais genre. Une meilleure basse, j'en sais rien.
Les voix, par exemple, alors c'est surtout du mix, j'imagine.
Ouais.
Je trouve que à partir du deuxième album, elles sont beaucoup plus intelligibles, elles sont un tout petit peu plus mixées en avant aussi, peut-être un peu moins noyées dans les effets aussi.
Bah, dans le deuxième, Alf, justement, il m'a dit, vas-y, faut assumer ta voix, mets-la devant, et il m'a un peu. Fait accepter aussi de, bah, mec, il y a ta voix, maintenant qu'elle est là, faut que tu l'assumes, tu vois. Et en fait, il m'a ouvert les yeux, il m'a fait mûrir vachement, Alf. Enfin, c'était des grandes discussions, justement, parce qu'au début, j'étais là, waouh, mec, ça sonne trop variété et tout, je veux pas du tout rentrer dans le délire et tout. Mais en fait, non, c'était intéressant. Ce qui fait que, je sais pas. Après aussi, je me suis acheté un préamp, tu vois, parce que la carte son à 60 balles.
C'est peut-être ça, en fait.
Ouais, voilà, j'ai acheté une Apollo et j'ai acheté un préamp, et peut-être ça a fait le truc un peu mieux aussi. Mais après, c'est juste, je pense, c'est l'expérience, tu vois, quand tu fais tout le temps la même chose, à un moment, tu deviens un peu meilleur, forcément, avec tes outils.
Ouais, mais le fait que, tu vois, ça soit l'ingé son du deuxième, qui était pas forcément quelqu'un qui te connaissait.
Non.
Qui propose sa vision du mix, et que toi, tu l'acceptes, tu vois, ça va un peu à l'envers de ce qu'on disait au début. À savoir, ouais, faut bosser avec des mecs qui te connaissent bien, parce que du coup, t'es dans ta zone de confort, mais c'est peut-être chouette
après,
aussi.
Après, il m'a détesté, hein, parce que j'ai pas voulu lâcher, mais bon, comme plein d'artistes, mais après, c'était vraiment collaboratif, quoi. Il était là. Écoute, laisse-le reposer, écoute ce mix. J'étais un peu en mode, vas-y, je lui fais confiance, mais en même temps, ça me rend fou.
Ouais.
Et en fait, ce truc qui me rendait fou, j'avais pas envie de me reconfronter à des compromis sur le troisième. C'est pour ça que je suis revenu avec Seb. Parce que Seb, pour le coup.
Lui, tu lui diras non, et il dira d'accord.
Non, mais ouais, parce qu'en fait, Seb, on est de la même génération, donc on se parle hyper crûment. Et quand il me dit, t'inquiète, laisse reposer, il est pas en train de me proposer un truc. Il me donne déjà ce que j'aime, en fait, parce qu'il connaît. Il me connaît bien. Il sait exactement quel preset je vais kiffer.
Mais là, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, toi,
sur les couleurs.
Si on parle du mix du deuxième album, t'es pas fan, en fait.
Si, si.
Ah. D'accord.
Ah,
donc ça a marché, en fait.
Ah, non, mais je le trouve ouf, le mix. Surtout sachant les bases que je lui avais filées. C'était quand même dégueulasse. Donc, genre, mec, non, mais moi, je trouve que ça sonne vraiment bien. Juste, c'est plus le.
Parce que là, le fait que, par exemple, il t'ait dit, faut assumer ta voix. Ça, c'est quelque chose que toi, tu t'as gardé pour le troisième album. Tu vois, t'as pas.
Ouais. Ah, ben non, mais j'ai appris énormément. Ouais, Alf, c'est devenu un ami et surtout, j'ai appris énormément.
Ah, bah, je suis rassuré. Je me disais, ça se trouve, ils sont en embrouille.
Il a une expérience. Ah, non, pas du tout. Ah, non. Ah, non, pas du tout. Non, mais mec, c'était énorme. C'était genre. Tu sais, j'allais faire du yoga avec lui. Genre, on avait des moments. Genre, on était dans notre bulle, dans sa cave de donjon, là, moyenâgeux. Je sais pas. Genre. Non, franchement, c'était ouf. Moi, j'ai appris plein de trucs. Ça m'a vraiment fait grandir sur plein de sujets. Je lui en dois une et je pense qu'on s'est tous les deux partagé. Moi, j'étais avec mes trucs de jeune, on va dire, et lui, ses trucs de vieux, en vrai. Du coup, il y avait ce truc, genre, on se partageait vraiment notre expérience et c'était grave cool.
C'est-à-dire que tu pourrais recollaborer avec lui sur quatrième album.
Mais d'ailleurs, je l'ai fait, en fait, tous les morceaux. Enfin, j'avais fait Summer Love avec lui après, qui était hors album. Et puis parfois, j'y repense, je me dis, ah, j'aimerais bien bosser avec lui et tout. C'est juste que Alf est beaucoup pris et c'est peut-être moins simple que Seb où je lui passe un coup de bigot et limite le lendemain je mixe le truc. Mmh. Il y a un truc où genre, j'ai l'impression que c'est mon cousin Seb et du coup c'est un truc très facile.
Comme avec Joris, putain.
Ouais, mais et puis en plus ça me rappelle Joris parce qu'en fait, pour l'histoire.
Joris,
attendez, pour l'histoire, Joris avait fait un stage chez Seb. C'est comme ça qu'il connaissait Seb. Et on mixait dans un garage qui était prêté dans une maison en banlieue. C'était horrible. L'endroit était tout petit. Et les gars avaient déjà du matos de fou, hein, Soda Sound. Mais ils avaient le petit garage à l'autre bout du monde. Et Joris m'avait dit « Ouais, je connais ce gars pour mixer l'album. » Et j'avais fait « Bah ok, allons-y. » Au final, ça avait graffité. Donc en vrai, en bossant avec Seb, j'ai aussi l'impression... que Joris est dans la salle.
Donc Joris, il y a un... si
non mais vraiment il y a un truc.
Faut lui envoyer la vidéo. Faut lui envoyer la vidéo parce que c'est rare hein, qu'on entende un artiste parler comme ça de quelqu'un avec qui il bosse même plus d'ailleurs.
Le big up à ce point.
Joris.
Bon, ce troisième album, un extrait. Je sais pas. Et après, on parlera un peu de l'intention peut-être derrière l'album, parce que j'ai l'impression qu'on a eu cette discussion un peu sur être pris au sérieux, etc. Ouais. Et de recettes, tu vois, d'être un artiste qui commence à être identifié avec une forme de recette. J'ai l'impression que là, t'as voulu prendre un peu ça de court, dire ah, attends, regardez, je sais faire d'autres choses aussi. Bon, tu me diras si c'est exactement ça. Mais peut-être que, ouais, je sais pas, un morceau. Est-ce que c'est le morceau d'ouverture, par exemple, Le Roi Soleil, qui est un peu un des tubes?
Ouais, Le Roi Soleil, je l'adore. En c'est plus, vrai je l'ai. Pour le coup, celui-ci, vraiment, on a écrit le texte à deux avec ma sœur.
Ah ouais.
Et ça, c'est un morceau qui date, genre vraiment l'instrumental de ce morceau, ça date du premier album. C'est un morceau que j'avais fait à ce moment-là.
Ah ouais.
Je l'ai laissé pourrir dans mon ordi, je savais pas quoi en faire. Et c'est là où genre mon label est trop cool, c'est qu'ils arrêtaient pas de me tanner en mode « Mec, ce morceau, c'est une dinguerie, faut que tu le finisses ». Mais ils le disent sur des milliards de morceaux, juste tu me connais. Et genre j'étais là, ouais mais je sais pas, il y a un truc qui s'apprend pas, je sais pas, c'est trop bizarre. Et à un moment je me suis dit, vas-y, ils ont trop raison, je l'ai réécouté, j'étais là, vas-y ça tue. Et ma sœur était là sur le canapé, je lui dis, vas-y écoute ça. Et je sais pas, je commence à jammer avec elle devant. Et
elle
commence...
fait de la musique aussi ta sœur?
Non, enfin elle a fait du violon, mais elle écrivait de ma sœur. Okay. Et du coup,
quelle famille.
Ça lui a fait un peu marrer de jouer le jeu de la chanson, qui est bien plus simple que écrire de la fiction ou des textes, tu vois. Et du coup, c'est marrant parce que moi, je simplifie tout ce qu'elle fait, parce que elle est aussi dans de la littérature assez niche et intellectuelle aussi parfois, avec beaucoup de refs littéraires. Moi, je capte rien, mec. J'ai pas fait des. Je suis parti à la seconde, tu vois, donc je suis un demeuré.
Non.
Mais genre, non, mais dans le sens, tu vois, genre, quand elle me parle et que. Enfin, tu sais, je lis peu le livre, quoi. Mais ouais, en ref littéraire, je me sens un peu débile. Mais bref, tout ça pour dire que l'échange, il était assez fun, quoi. Et en fait, on a écrit ce texte ensemble. Donc c'est pour ça que j'adore ce morceau en plus, parce que bah, ma sœur.
Cette histoire, quoi.
Ouais, c'est la best, ma sœur.
Trop bien. Allez, on s'écoute ça, Le Roi Soleil. Sur cet album, je te disais, tu vas répondre, hein, mais que tu as voulu, je sais pas si c'est te diversifier, mais assumer peut-être des trucs.
Il y a du reggae là, c'est ça que tu veux
alors,
dire.
Alors il y a un morceau encore plus reggae réellement.
Ouais, il y a
une petite vibe quand même.
Tu vois, par exemple, je pense à Tumnarg, qui lui, ça c'est la musique électronique beaucoup plus assumée que ce que tu pouvais faire encore auparavant. Je trouve, par exemple, attends, je mets juste le début de Tumnarg, vous allez voir.
Oui, plus ça aussi.
Ouais. Est-ce qu'on n'avait pas.
Mais ça, c'est presque du tel, fit tel, en fait.
Ouais, il y a ce côté-là, effectivement. Mais là, maintenant que je connais tel, ça fait ouais. du sens. Mais par rapport à Miel de Montagne, je pense que t'avais jamais, tu vois, poussé le truc ouais. aussi club, entre guillemets, sur de la basse, par exemple, tu vois. T'as... Par exemple,
bah ouais.
alors Daz parle
un avec lui-même, c'est incroyable. C'est
mais ouais, au début j'ai failli mettre le feat. Hein.
Ah
enfin,
ouais.
Je me suis dit je vais partir dans un vortex.
Le morceau vraiment reggae, c'est Aïe ou j'ai plus j'ai un.
Non c'est des heures.
Ah c'est des heures. Ok. On peut se mettre aussi un extrait rapidement.
Ah oui. Aïe.
Ça mec en live c'est une dinguerie.
Bon de toute façon il faut aller écouter tout l'album est hyper cool. Mais ouais alors c'est quoi cette idée? Il y avait une intention un peu derrière tout ça c'est...
En fait il y a vraiment là je suis parti dans une vibe je fais ce qui me plaît et je fais aussi avec ce que j'ai dans le sens que j'ai fait tu vois genre par pur kiff je me suis retrouvé à faire du reggae par pur kiff je me suis retrouvé à renouer un peu avec mon projet house et genre fait en soum soum et là j'ai testé en mode bah vas-y ces trucs de kiff et si je réessaye un peu la même technique que pourquoi pas c'est-à-dire poser ma voix voir ce qui se passe et en fait j'ai réussi à en faire des chansons et en fait c'était tellement spontané que j'avoue même là j'ai peu de recul en fait parce que c'est enfin là ça va presque faire bientôt tu vois ça fait 8 mois 10 mois donc je recommence à avoir un peu le recul mais ouais il y a pas mal de trucs que j'ai pas capté en fait le truc je l'ai sorti j'ai fait j'avoue je sais même pas le défendre cet album parce que j'ai rien compris j'ai rien compris
ce que ça s'est passé derrière
c'est passé
on a ouvert l'émission on a parlé stratégie très vite d'ailleurs est-ce que justement au fil des
mais c'est bien parce qu'on est revenu
bah,
dessus
c'est ça ouais. ça faisait partie de la strat en fait le truc c'est que j'avais un Olympia calé. Cet Olympia, il était calé un an à la. Enfin, je le savais un an en amont. Et je pense que la billetterie était ouverte peut-être 6 mois avant, j'en sais rien. Et du coup, il y avait cette échéance. Et genre, je sortais de la tournée du deuxième album. Et je dis et les gars me font absolument un album à ce moment-là pour l'Olympia. Parce que sinon, il n'y a aucune actu, ça va être un four. Donc j'étais là, bah ok les gars, je suis chaud, mais comment je fais en fait? Parce que genre.
Ah ouais, donc c'est carrément.
Là, genre, je finis ma tournée, on était en mai 2024, tu vois. Et je dis, ok, bah je tourne pas.
Parce que comment
je tourne pas l'été, mais en même temps, j'avais quelques dates trop stylées, notamment une tournée au Québec, beaucoup de festivals au Québec et tout. J'étais là, attends, c'est mort. Du coup, je suis parti en mode petite équipe, et j'ai juste fait 15 concerts. Mais en fait, 15 concerts, c'était quand même déjà pas mal. Enfin, je me suis rendu compte après que, en fait, j'avais pas du tout le temps de faire du son. Et genre, j'étais là, ouais, juste 15 concerts, c'est que dalle, je ferai de la musique à côté. En fait, j'ai rien foutu de l'été. Voilà, en plus, je venais pas de me faire larguer à ce moment-là, mais je finissais une histoire assez intense. Donc, j'étais au Québec en phase man. Voilà, tu vois, je fumais la weed locale pour essayer d'oublier. Au final, ça me rendait encore plus anxieux. Enfin, c'était horrible. Et puis le gluten là-bas, c'est un délire. Donc j'étais tout mal. Mais en même temps, c'était un bonheur parce que j'étais au Québec, je faisais de la musique au Québec. C'était trop bien. Et je rentre, septembre, et je fais, les gars, faut faire un album. Et je dis, bah ok, bah vas-y. Ah ouais, non, il y avait déjà. Ouais, en fait, j'avais déjà fait de la matière. Quand ils m'ont annoncé qu'il y avait un Olympia, j'avais fait un peu de matière à Ibiza.
Mais juste quand tu dis
Ibiza, ouais. Non, j'étais parti à Ibiza, ouais.
Un mois
avec mon ex, justement. C'était trop mal passé. J'avais rien foutu, je suis rentré, j'étais célibataire. C'était un four.
Après, tu continueras sur l'histoire. Mais l'Olympia, comment ça se décide? Enfin, c'est parce qu'il y a une opportunité qui se présente et on dit, on peut faire un Olympia, tu valides, tu dis, ok, on y va.
Ouais, c'est ça, en fait, l'année d'avant. Donc, j'ai fait le premier Trianon Burnout Man, mais c'était ouais. complet. Et du coup, j'ai refait un deuxième Trianon la même année,
okay.
qui était recomplet. Donc les gars, ils étaient là, bon, bah, ce mec, c'est une pompe à fric, on va faire l'Olympia. Moi, j'étais là, les gars, j'y crois pas, l'Olympia, jamais je le remplis, tu vois.
C'est ton tourneur qui te propose?
Ouais, c'est mon tourneur.
C'est quoi pour que les gens ils comprennent bien le différentiel d'audience entre Trianon et Olympia, c'est quoi?
Alors, Trianon, c'est 1500, et Olympia, c'est, je crois, 2600, je dirais.
Quand même, c'est pas mal, hein.
Ouais.
Donc c'est le double quoi en gros quasiment.
Donc vu que j'avais fait deux Trianons dans la même année, ça faisait 1500 plus 1500. Enfin je sais pas, ils se disaient, de toute façon c'est un peu, c'est juste le trajet classique, tu vois. Tu commences par, tu sais, un pop-up du label, après t'essayes une boule noire, une cigale, Et après, quand la cigale est faite, tu refais peut-être Trianon. Enfin, tu sais, c'est toujours la même chose. Olympia et après Zénith. Parce qu'en fait, après l'Olympia, enfin, ou sinon, tu refais deux cigales et tout. C'est pour ça, là, je fais quatre maros. Pour rester dans le même quota que l'Olympia. Mais écoute, on fait plusieurs. Ouais, de toute façon, c'est tous les projets, si tu t'observes, c'est tout le monde.
Ouais,
fait...
c'est du calcul.
Ouais, ouais, c'est ça. Et toi, t'es content parce que tu dis, ah yes, je suis enfin cette salle.
Donc, trop bien de toper l'Olympia, qui est une salle mythique en plus, etc.
Ouais, ouais, en plus, c'était un des plus beaux concerts que j'ai fait à Paris. Enfin,
mais pour assurer un concert comme ça, s'il est pas tout de suite dans la foulée un peu d'une sortie, il faut recréer de l'actualité, c'est ce que tu nous
dis. Bah, ouais, c'était leur stratégie, qui paraît logique. Mais c'est surtout,
Non, mais c'est ouf.
Le problème avec cette stratégie, c'était ignoble. Parce qu'en fait, le problème de cette stratégie, c'est que tu bosses pas avec une matière que t'as, c'est que t'as pas de matière et t'as déjà un point d'échéance. Donc, laisse tomber la presse, mon gars. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, attends, moi j'en ai marre d'avoir la presse, mais j'ai quand même envie de jouer le jeu. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, j'ai grave envie de faire de la musique. Vraiment, ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de musique parce que bah, j'étais en amour avec cette fille. Je tournais à mort et j'avais vraiment peu fait de musique quoi, dans le studio. Donc j'avais plein de matière, de petits bouts de moments où je faisais de musique, mais j'avais rien de concret. Donc j'avais énormément de matière, plus la petite résidence à Ibiza, j'avais de la matière de ouf. Et donc j'arrive, je me pose, je me dis ok, j'ai toute cette matière. Et je me suis fait aider aussi par un Québécois, Jérémy Lachance, qui fait partie du groupe Grand Eugène, qui a bossé avec plein de gens. Et lui, à un moment je buguais un peu parce que justement j'étais pressé de finir cet album puisqu'il y avait cet échange, donc je devais absolument le rendre pour que le vinyle soit sorti avant l'Olympia. Enfin laisse tomber, mec, c'était genre la course de la mort, tu vois. Et au début j'ai dit bah les gars, je vais essayer, mais je vous promets rien. Puis en fait je me suis enfermé 3 mois. Donc l'hiver, je l'ai pas vu passer. Genre vraiment genre, et 1er janvier sous le sapin, j'ai donné à Seb l'album à mixer. 2 semaines après, c'était ciao et tout était dans les clous quoi.
Est-ce que tu penses que
j'étais là en mode les gars, en fait, je suis juste énorme. Non, à ce moment-là, j'étais vraiment fier, j'avais vraiment les chevilles bien gonflées.
Tu penses que le côté contrainte justement t'a aidé? Ça c'est un truc dont on parle souvent dans l'émission, tu vois, de la contrainte dans la musique.
Bah c'est ça. Ça m'a grave aidé parce que bah en fait, j'avais l'envie. Si j'avais pas l'envie, ça m'aurait pas aidé. Enfin, ça aurait été juste cauchemardesque, mais vu que j'avais très envie de faire de la musique et j'avais...
Oui, c'est le prétexte.
Et la deadline, elle était cool parce qu'elle était très proche et en même temps...
T'as le temps quand même.
Ouais, en même temps, tu connais, il y a le truc où genre, bon, si ça se fait pas, ça se fait pas. On jouera avec et on essaiera de remplir l'Olympia comme on peut. Et moi, j'étais un peu en mode, bon, bah voilà, même si je remplis pas l'Olympia, c'est la réalité aussi, c'est ma réalité. Fallait juste assumer le fait de pas remplir l'Olympia.
Du coup, l'Olympia, donc la date, c'était quoi? C'était quel mois?
C'était en mai, 16 mai.
Et toi, t'as rendu l'album en janvier?
Janvier, ouais. Du coup, il y avait... C'est assez long les délais d'usine, donc ça mettait 2 mois. Donc l'album, il est sorti vraiment genre avril. Bah, il est sorti en avril.
Ouais, d'accord.
Début avril, un mois avant.
Donc un mois avant.
Donc, c'était quand même très serré.
Bravo, hein, parce que.
Les gens n'avaient pas eu le temps, mais quand même, ouais, j'ai vraiment. C'est l'album le plus rapide que j'ai fait.
Vous avez bien bossé,
ouais. Ouais, mais alors du coup, effectivement, ça veut dire que toi, quand t'arrives et que tu fais ta date à l'Olympia, l'album, il est sorti, donc t'as respecté tes engagements, mais.
Mais c'était un énorme kiff parce que moi, les morceaux, je les découvrais, quoi.
Ouais, voilà, c'est
ça. C'était.
Mais le public aussi, du coup, parce qu'ils ont, le public, il a pas forcément eu le temps de s'approprier le truc.
Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, au contraire des festivals ou des co-plateaux et tout, genre, quand tu fais ta salle à Paris.
Oui, les gens viennent pour toi, donc.
Les gens sont quand même calés sur ton actu. Et c'était d'autant plus jouissif de justement chanter le Roi Soleil avec une salle comblée de 2600. Parce que du coup, on a réussi à faire sold out. Moi, j'y croyais
pas. J'allais poser la question.
J'étais trop heureux.
Bravo.
Et du coup, au dernier moment, et sold out une semaine avant, genre, j'étais là, mec, c'est énorme. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté sur les toits de Paris la veille pour avoir un énorme jus d'adrénaline.
Okay.
Avec un mec assez connu qui s'appelle Manu sur les réseaux là.
Okay.
Tu sais, qui a fait le jump sur la tour Eiffel, vous avez dû le voir passer là, qui fait des backflips ultra dangereux. Il m'a emmené en vlog la veille de l'Olympia monter sur les toits de Paris. Mec, je me suis retrouvé porté par les mecs avec le vide. Vraiment, je me suis genre
mais toi, tu te retrouves à l'hôpital après avec
non mais je me suis je redescendu de l'immeuble, mec, j'avais les jambes qui tremblaient comme ça.
Okay, et
j'ai
tellement que tu faisais ça quand même ou
j'ai rien dit à personne. Ils étaient en bad, mec, et genre ouais, on est monté sur les toits de Paris, on s'est fait, enfin genre c'était intense de fou. Et en fait, j'avais eu tellement d'adrénaline que j'ai pas eu le temps de penser au show. Je suis arrivé à l'Olympia, mec, c'était comme si je sortais d'une session de sauna quoi. J'arrivais, j'avais passé une pure nuit parce que j'étais éclaté de la veille. Donc voilà, la prochaine fois, je sais pas ce que je ferais. Faudrait que j'aille à Disneyland. Enfin, faut que je trouve un truc, en tout cas, qui soit hyper fort en dopant.
Pas de plus en plus dangereux.
En adrénaline.
Par contre.
Et je te dis, c'est la meilleure technique pour pas stresser. Ce qui fait que je suis arrivé à l'Olympia, mec, j'étais, mais tellement, tellement décontracté. D'ailleurs, ça me faisait peur. Je me suis dit, il va m'arriver une merde. Je suis trop relax, tu vois. Et donc,
le mec quand même anxieux en toutes circonstances. Tu vois, tu
dis. Ah ouais, non mais moi je suis un putain d'anxieux, c'est un enfer. Mais en fait, ça fait de moi un peu Gaston Lagaffe parce qu'en fait, en étant anxieux, il se passe des trucs de ouf. Enfin, des
ouais, espèces quand, de. Quand tu risques pas de crever, ouais. C'est
des
pas
espèces
mal.
De trucs lunaires, tu vois. Mais du coup, pour la petite histoire, c'est là où je veux dire quand tu vois les gens qui chantent ton morceau qui est sorti il y a un mois, que même toi tu découvres sur scène. Et que t'es l'homme le plus relax du monde, genre ouais, franchement c'était énorme,
kiff,
ouais c'était vraiment du kiff à l'état pur, ouais. C'était de la crystal meth mec.
Crystal okay, meth. De... Ok.
Non mais franchement c'était un cool moment, mais ouais pour revenir juste à ce processus de création, je me suis juste chauffé à finir les morceaux. Ce qui est très dur pour moi, genre c'est vraiment le truc que je déteste dans la musique.
Moi, je trouve ça ouf quand même que ça soit le côté business, ok, c'est une industrie machin, mais que ça soit ça qui drive carrément la créa, quoi. Qu'on te dise, mec, tu te démerdes comme tu veux, mais tu me rends l'album.
Ouais, pour ah la ouais, salle, c'était
là,
ça.
Vous comprenez qu'il y avait un peu de marge quand même de manœuvre.
Ouais, okay,
l'album
il sort un mois avant la salle.
Crois-moi que le tourneur, il était là, frère, nous fais pas perdre de l'argent à l'Olympia. Enfin, tu vois, parce que eux, ils la louent la salle, enfin.
Ouais.
Donc mec, laisse tomber la presse. Sauf que moi, genre à ce moment-là, j'étais là, vas-y, je m'en fous. Enfin, je sais pas, je me suis mis en mode, je m'en fous, je fais mon truc, même si. Enfin, tu sais, j'étais là en mode, j'ai rien à perdre, si ça foire, ça foire. Et en fait, ça a réussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que là, avec la pause que je suis en train de faire, je suis en train de me rendre compte un peu de l'absurdité de cette stratégie.
A posteriori, ouais, tu
et je
dis,
me
ouais,
dis, vas-y, c'est mort, prochain album. Ouais. Avant de caler un truc, il faut
caler le zénith.
Ouais. Parce que le problème de cette stratégie, c'est que j'ai pas pu aller au fin fond de mes idées, de ma DA, en termes d'image. Je trouve qu'il est un peu pauvre en image, cet album, et je suis juste un peu déçu de ça. Mais après, encore une fois, tu sais, c'est comme tout. T'es toujours un peu déçu.
Ouais, choisir, c'est renoncer.
Ouais,
c'est intéressant aussi de se remettre dans un truc où t'as pas trop le temps de réfléchir. Alors, je dis pas que c'était le bon contexte, qu'il fallait cette pression, etc. Mais en tout cas, juste d'un point de vue purement artistique, de se dire, vas-y, je réfléchis pas trop non plus à 3000 ans, à un concept.
Ah, mais j'étais vraiment dans l'action. J'étais que dans l'action.
Ouais.
Mais du coup, tu vois, j'ai eu l'impression d'avoir couru pendant un an, là. Donc, je suis en mode, là, je suis genre essoufflé, quoi.
Mais, là, on comprend
le
break, là.
Heureux, mais genre, tu vois, genre, j'ai vraiment l'impression, du coup, de. Parce qu'après, ça s'est pas arrêté, puisqu'il y a eu l'Olympia, le machin. Après, les gars, ils m'ont fait, il faut absolument que tu sortes un deluxe au moment du Mama pour avoir des festivals l'année prochaine. Et là, j'étais là, ah, ok, et tout, c'est pas fini, en fait. Donc là, j'étais en tournée cet été, et j'étais en mode production à mort des morceaux que j'avais pas pu foutre sur le disque. Et au final, j'ai fait énormément de feats.
Ouais.
J'ai énormément collaboré avec d'autres gens.
Ce qui n'est pas le cas dans l'album original, il y a un seul feat avec Elisa Di Fala.
Ouais.
Par contre, effectivement, dans le Deluxe, où il y a 5 morceaux en plus, bah, sur les 5 morceaux, il y a 3 feats, quoi.
Ouais, je me suis grave ouvert au. En fait, ce qui est trop bien, c'est que mon label, enfin, mes éditeurs, ils m'ont proposé des sessions. Ils m'ont dit, ouais, tu veux faire des sessions, machin. Et en fait, ça m'a grave détendu parce que moi, j'étais hyper timide du fait de faire de la musique avec des étrangers, tu vois. C'est pour ça aussi que je fais de la musique tout seul, peut-être. Enfin, il y a une forme d'être pudique, mais genre. Ouais, je sais pas. Et du coup, j'ai commencé à me détendre. Et puis, j'ai fait toutes ces sessions. Et en fait, on a réussi à finir, parce que c'est plus facile à deux de finir les morceaux quand même. Bam. Et du coup, j'ai réussi à être dans les temps.
Donc là,
aussi.
T'es
et
dans les
coup,
temps pour
pareil,
le moment.
J'étais en mode courir tout le temps, tu vois.
Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette réflexion. C'était pas conscientisé de se dire, OK, Miel de Montagne, je commence à être identifié. Je commence à être dans une case. Ça me fait un peu peur. J'essaye de faire autre chose. C'était vraiment juste l'envie qui a drivé le truc.
En fait, j'avais grand envie de faire la musique. Et il y avait aussi ce truc de genre, vas-y, j'en ai marre d'attendre. Enfin, j'avais envie de vitesse à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais envie d'être une Formule 1. Et on parlait de Joule tout à l'heure, mais à ce moment-là, j'avais envie d'être Joule, quoi. J'étais là, j'ai envie de sortir un album tous les 6 mois. J'ai envie de régaler les mondes. Ouais. Et en fait, quand je suis parti 3 mois, là, en m'isolant, tu sais, j'ai pas pensé à moi. J'étais vraiment, au contraire des 2 autres albums où j'étais vraiment centré sur moi, ce que je veux faire et tout. Là, j'étais vraiment dans un truc de, j'ai envie de le faire. J'ai envie de partager cette musique. J'ai envie de la donner. Et même si mon album, je l'ai fait trop vite et sans m'en rendre compte, c'est une énorme merde, je veux juste l'offrir aux gens. Mais, enfin, j'allais pas offrir une merde, mais, en tout cas, j'acceptais le produit tel qu'il était, mais je voulais juste donner quelque chose. Et tu vois, même un cadeau foiré, c'est l'intention qui compte, et j'étais dans cette dynamique-là. Et c'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé, c'est parce que j'étais dans un rapport, vraiment, j'avais envie de, je sais pas, j'avais un truc où j'étais pas centré sur moi, j'étais en mode, je veux juste vous donner de la musique, les gars. Parce qu'en fait, je voyais que ça faisait plaisir aux gens. Enfin, tu sais, je sortais un single, je voyais que les gens, ils étaient toujours là à m'écouter. Et tu sais, j'avais vraiment une prise de conscience du public à ce moment-là. Et là, j'avais pas avant.
Parce que là, justement, la question, c'est après au niveau du. Donc, il y a de la sortie de l'album en avril.
Ouais.
Mais du coup, ouais, en termes de single, c'était quoi la politique par rapport aux plateformes, etc. C'est tu drops un single tous les X, toutes les semaines, toutes les X semaines ou...
Au moment de la sortie de l'album ou au Deluxe après
Pour l'album.
Pour l'album
déjà. Ouais.
Bah, l'album, vu que c'était assez rapide, parce qu'il fallait le sortir avant l'Olympia, tu vois, j'ai.
Bah, ouais, t'as pas.
On n'a pas eu le temps, en fait. Genre, l'album était pas. En fait, on a mixé et masterisé les premiers quoi. Singles. Mmh. Et après, on a mixé et masterisé le reste des. Mais on avait déjà sélectionné les... Mmh. On avait déjà sélectionné les singles pour les pré-mixer avant tous, pour que ça sorte sur les plateformes.
Et comment, puisque t'as quand même la responsabilité auprès du tourneur de remplir sa salle, tu vois.
Ouais.
Du coup, c'est quoi la strat pour la partie réseaux sociaux? Est-ce que tu fais du teasing avec des extraits de, enfin des.
Bah la strat, c'est que j'ai fait des TikTok à mort là et tout. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que je déteste ça. J'ai presque envie de supprimer mon compte TikTok là. Mais ils vont me tuer. Désolé les gars, je vais le faire en fait. Mais en vrai, ouais, en fait, le truc, c'est que je suis tombé dans ce truc où à ce moment-là, l'année dernière, genre le clip, c'est mort. Ça sert à rien de mettre de l'argent dans le clip. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, les capsules qui font le buzz, machin. Et moi, en fait, j'étais là, j'y crois pas à ça. Ça me saoule parce que moi, en fait, pour moi, un clip, c'est artistique. En fait, j'en ai rien à foutre que ça marche. Je veux juste faire des trucs stylés dont je suis fier à montrer en mode papy quand j'aurai 70 ans et je montrerai à mes petits-enfants. Oh, regarde, c'est papy, là, c'était énorme.
Et regarde, en fait, papy, c'est sur ça. TikTok.
Non, mais c'est ça qui me fait kiffer. Et moi, il y a des gens, tu vois, ils sont très forts et ils kiffent ça, mais moi... Je suis pas un fanat du truc influenceur et tout. Enfin, ouais. Tu vois, je préfère me faire un truc démoniaque avec un clip où ça prend le temps et tout. Genre, ça me fait kiffer. Mais après, c'est peut-être aussi plus de ma génération. Mais en même temps, j'ai pas choisi de naître dans les années 90. Et c'est ça qui m'habite et fuck off, tu vois.
Ouais, mais du coup, il y a du budget ou il y a pas de budget pour le clip?
Du coup, il y avait pas de budget pour le clip. Ouais. En fait, ils voulaient pas foutre le budget là-dedans. Ils préféraient le foutre en mode réseaux sociaux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas le temps de réfléchir. Et j'ai un peu délégué ça et je leur ai dit ok, je vous fais confiance et je vais donner le meilleur de moi-même pour jouer le truc des réseaux sociaux. Et j'ai joué le jeu et en fait j'étais sursoulé de ce jeu. Donc ça a un peu merdé parce que j'ai pas fait l'influenceur tout le temps. Mais après tout le monde dit ouais, t'as un bon perso et tout, faudrait mettre ça en plus en avant. Mais en même temps, je suis désolé les gars, ça me fait trop chier d'être sur les réseaux. En fait, moi, pour moi, vraiment, j'ai l'impression de rater ma vie quand je me filme ou quand je, tu sais, je suis là, ah mais ce temps là je pourrais être juste en train de, je sais pas, de
fumer de la weed canadienne.
Non, mais d'être avec d'être avec des gens que j'aime ou genre juste faire une activité qui est trop cool. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment l'impression de rater ma vie. Et mais du ça coup, veut dire cette que, sensation, elle est insupportable.
Mais c'est super intéressant parce que ça veut dire que donc toi, t'as ton idée quand même artistique, à savoir faire un clip, tu vois. Et là, c'est ton équipe qui normalement est supposée t'appuyer.
Je me suis fait mindfuck.
Ouais, c'est ça en fait.
Ouais. Mais après encore une fois, tout ça, c'est pour le bien du projet aussi. Et tu vois, ils essaient de se mettre à la page de comment fonctionnent les choses. Ça reste un business. On n'est pas.
Bien sûr. Mais tu vois, la question, c'est jusqu'à quelle limite t'acceptes de pas être toi finalement, parce que là toi tu tiens à ton clip.
Mais après moi je savais pas, je pouvais pas savoir que j'allais détester.
Donc là t'as testé, t'as dit ouais finalement.
Là j'aime pas, c'est bon, vous savez les gars, j'aime pas ça. Mais en fait je voulais tester parce que moi faire de l'argent et le business de l'industrie musicale, c'est pas mon métier en fait.
Non, bien sûr.
C'est pour ça que je travaille avec ces gens-là. Sinon mec, ça ferait longtemps que j'aurais fait ma propre édition, mon propre label, et mec je m'en foutrais plein les fouilles, tu vois. Mais le truc est, c'est que avoir de l'argent pour continuer de faire ce que je fais, ça c'est sûr que j'en veux. Mais faire de l'argent, c'est pas mon but.
Oui,
dans
c'est
la
pas
vie.
Une fin en soi.
Ouais, c'est vraiment pas, ça m'intéresse pas, ça me fait chier. Parler de ça, ça me fait chier. Du coup, je le laisse à ces gens-là. Et c'est mon label, mes éditeurs. Et du coup, forcément, il y a des endroits où moi, je capte rien. Donc, toute la stratégie, souvent, je leur fais confiance. Je me dis, ok, si c'est bon pour le projet, parce que eux, ils sont perdants dans l'histoire si ça marche pas. Donc, c'est tout leur intérêt de réfléchir à un truc.
Leur intérêt aussi, c'est peut-être que leur artiste, ils se sentent bien dans les trucs qu'il fait et que
bien
ça
sûr,
cadre avec
mais
les compromis, trouver l'équilibre.
Bien sûr, mais on en a discuté et moi, je me suis dit, je pense que ça peut valoir le coup. Sur mon TikTok, tu vois, on s'est marré. Moi, j'ai fait plein de petites capsules par rapport. Je me disais, ah bah, c'est cool, je vais pouvoir faire toutes mes idées en clip, en petites capsules. Au début, ça partait comme ça. Mais en fait, le truc a quand même été un peu trop tourné réseaux sociaux au lieu de juste petits clips. Au final, c'est pas le truc que je voulais, mais en fait, c'est comme tout projet. On essaye, tu te casses la gueule tu rates. Et, donc là, et en ratant, tu te dis ah bah j'aime pas ça, ok maintenant je vais faire ça, tu rectifies pour toujours.
Et donc là, on a un message pour le label, c'est que prochain album, les gars, il y aura du clip. Hein.
Ouais, mais je leur ai déjà dit, ils ont bien tiré la gueule, ils m'ont dit mec, l'argent qu'on a mis dans les réseaux sociaux, tu te fous de notre gueule et tout. J'étais là, ah, je suis désolé, mais en même temps, voilà, je considère qu'on a essayé quelque chose.
Et... T'arrives à quantifier la part de ton public qui vient des réseaux sociaux, genre les gens qui t'ont découvert via, les capsules TikTok
Je sais pas. En fait, ça dépend. Moi, quand je vois des jeunes, vraiment jeunes, 18 ans, ouais. Je suis trop heureux. Ça me fait trop du bien parce que c'est eux qui amènent l'énergie. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis de 20 ans. Enfin, genre vraiment, moi, je suis un gosse en plus, donc il faut pas me chauffer. mais j'ai l'impression qu'effectivement, tous les gens de à peu près de ma génération, qui ont autour de 25-35, ils me connaissent déjà depuis d'avant. Je suis pas sûr qu'ils me découvrent. Je sais pas, en fait, je me rends pas compte du tout.
C'est dur de savoir tout
En plus, je regarde pas les stats.
C'est à ça que ça sert, une équipe.
Et j'ai pas Spotify en plus. Tu sais, souvent, je demande à mes potes de ah, tu peux me dire combien il y a d'écoutes sur le truc. Parce que tu sais, je peux pas les voir en
pas premium.
Ouais. Ou sinon, faut que j'aille sur mon compte artiste. Mais mec, j'ai même pas les identifiants. Genre, c'est un enfer. Genre, tu sais, t'as un truc, les QR codes et tout, là, ça rend fou. Du coup, genre, c'est pas franchement ce. Ouais. Et puis là, tu vois, le fait d'être en pause, je passe vraiment très peu de temps sur Insta, juste pour parler aux potes ou quoi.
Ça te convient bien.
Et je me sens mille fois plus heureux, quoi. Genre, si je pourrais vraiment quitter. En fait, j'aimerais être aussi connu que Mac DeMarco pour faire comme lui, me barrer des réseaux. Ça serait mon rêve, en fait. Et en fait, j'ai envie d'être connu juste pour ça, pour me permettre de me barrer des réseaux. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un niveau comme ça que tu peux survivre.
Être connu pour plus l'être.
Ouais, être connu pour plus l'être. C'est magnifique.
C'est beau, ça.
C'est le titre de ton prochain livre.
Je prendrai des points sur ta chanson.
Je pense que ça
être connu pour ne plus l'être.
Ça peut être même le mot de conclusion. Peut-être de ta prochaine chanson, effectivement. Mais en tout cas, de conclusion de cet épisode. Parce qu'on arrive à,
c'est vrai, c'est
à
un...
quasiment 2 heures de discussion.
On passe vite quand on s'amuse. Ouais.
C'était hyper intéressant. Merci pour ta transparence.
Vite, hein. C'est parce que moi, je pourrais parler encore 2 heures.
Ouais, c'est ce que les gens nous disent à chaque fois.
Déjà, ce qu'on peut faire, c'est avant de passer au roco, on peut s'écouter comme un dernier extrait, parce qu'on a écouté un seul morceau réellement, un extrait un peu long de ton dernier album, de Ouin Ouin. Il y a un morceau, toi, que t'aimerais bien écouter, par exemple?
Il y a un morceau.
Que t'as envie de faire découvrir à nos auditeurs.
Ouais, il y a un morceau vraiment, je venais de me faire larguer, je pleurais. Il s'appelle Je plonge, et c'est celui qui a lancé un peu pour moi le. J'étais là, ok, c'est la DA de l'album, quoi. Enfin, en tout cas, je suis dans cette ambiance. J'avais le bleu de la pochette à ce moment-là quand j'ai fait ce morceau.
Ouais. Je ris, mais
à Marseille,
c'est triste.
Et je plongeais dans la Méditerranée et dans mes larmes. Donc, on peut s'écouter.
C'est parti, je plonge. Les amis.
Dans la mer et dans ses larmes.
Il plonge dans le sommeil.
Ah bah là, non, pas dans le sommeil. Non, dans la mélancolie, éventuellement. Non. Je plonge surtout dans la conclusion.
Quelle transition journalistique.
Non, c'est clair. Faites gaffe.
On est
pas là-dedans. Du journaliste.
Si. Il peut y avoir du bon journaliste.
Ah oui, si.
On a reçu de très bons journalistes dans cette émission.
Des très bons journalistes, c'est vrai. Excellent journaliste.
On a une tradition, Milan.
Ouais.
C'est de terminer avec les recommandations. Alors là, c'est plus des morceaux de toi, mais chacun autour de la table, un morceau qu'on a envie de faire découvrir à nos auditeurs, un truc qu'on a kiffé, soit récent, soit un de nos grands classiques. On peut commencer avec Daz, si tu veux. Ça te laisse un peu le temps de réfléchir.
Avec Daz, c'est quoi?
On peut commencer. On peut commencer comme ça. Ouais. Et t'en as déjà un, toi, Daz?
Ouais.
Ok.
En fait, j'ai pas
prends
de
ton téléphone, regarde peut-être dans les trucs que t'as écouté,
parce que moi j'ai aucun
En fait, vu que j'ai quitté Spotify, et donc je le disais en off, mais non, on le disait même en on, j'ai découvert que on pouvait plus écouter les trucs de manière linéaire quand on a un compte pas premium. Du coup, je suis parti sur mon disque dur.
T'écoutes que des morceaux de 10 secondes.
Bah non, mais en fait, du coup, ouais, j'ai lâché mes playlists Spotify et je me suis remis à écouter la musique qui est stockée chez moi sur mon NAS. On va partir du côté de Cleveland avec un groupe, un petit groupe qui s'appelle Bone Thugs and Harmony, et on va s'écouter un morceau qui est sorti sur leur premier album The Art of War, sur leur deuxième album en 97, qui s'appelle je sais pas, parce qu'en fait moi je trouve que tout le CD est trop cool. On va s'écouter It's All Real. Allez hop,
et ben c'est parti.
Crazy bone in the bone, with my mighty warrior, with my mighty warrior. This is all real, what you see. I said it's all real, it's just the dark and deep. Nigga, just because crazy cries speak less, don't be mistaken, my canvas for weakness. Humble but ready to rip on my violent side. I can't deny I'm like a Jekyll and Hyde, Gemini. Look, if you see me quiet, then I'm plotting to ride. Why? Tell me why. In the eyes, I'm living a minute, but I like it. Destroy, paranoia will make me blow you away. But hey, nigga got too close to me, and that ain't how it's supposed to be. Nigga want respect, but what do you show me? Play a hate and anticipate the day that you can see me fall. But act like you know, rolling with Mo Posse up. Do damage and manage to wiggle our way out of handcuffs. As we strut as thugs, we must do our best to obey God. Mind in these times, gotta do what you got to do. Raw till 99. Slim nigga, can they get up and come and get it if it's really coming? Now I get it, I'm a fool, niggas acting crazy. Save this off, come and get it if you really want it. Yeah. It's hating, baby, that got me so cold. You gotta be heartless in certain situations like retaliation.
Je suis dans une phase
de lover.
Ouais, en fait, non, de remettre un petit peu du respect sur le nom de Bone Thugs, parce que je trouve qu'ils ont apporté un truc qui était incroyable à l'époque, parce que eux, ils ont commencé en 93, 94. Et je me rappelle que quand ils sont sortis, justement, ce mélange de, tu sais, beaucoup de gimmicks, d'adlib, chantonné avec des harmonies, etc. En fait, il y a plein de mecs du hip-hop à l'ancienne, Mobb Deep, Wu-Tang, qui étaient en mode, c'est quoi cette merde, tu vois. Donc, je trouve que c'est super intéressant et important de les saluer, parce que c'était un vrai bol d'air frais à l'époque. Et moi, j'écoute encore ces albums, là. Donc, celui-là, 97, tu vois, ça commence à dater, mais je l'écoute encore avec plaisir. Je suis trop content, quoi. Donc, merci, Bone Thugs.
Milan, est-ce que t'as Miel, t'as trouvé
ouais,
un truc?
Bah tu sais, moi je vu que tu sais je passe mes journées quand même assez chill.
Oui. Attends d'écouter de la musique.
J'écoute
ouais,
rien.
Je bah du coup je rejoue à mon jeu favori qui s'appelle Skate. J'ai enfin du temps pour jouer à la Play, ouais.
Okay. Mais il est sorti il y a pas longtemps, lui, non?
Ouais.
Il y a une nouvelle version. C'est un vieux jeu.
Enfin, je suis vraiment déçu par ce jeu. Mais en tout cas, ce qui m'a régalé, c'est que la bande son est assez cool. Et il y a un morceau. Alors, j'aimerais bien avoir l'histoire. Je me suis pas penché sur l'histoire de ce morceau.
Okay.
Je sais pas combien il y a de versions. Et c'est quoi la vraie version? Parce qu'il y a 1000 dubs dessus. Tu sais, moi, je réécoute que du reggae en ce moment.
Okay.
Et je me suis fait que des playlists dubs. Et il y a Disco Devil. Mais la version de Lee Scratch Perry.
Okay.
Parce que, je sais pas, il y a plein de versions de ce truc de Disco Devil. Alors, je sais pas si Lee Scratch Perry, c'est l'original, mais Mais on a des obscurs, des dubs obscurs de cette version. Et j'en ai trouvé plein sur YouTube, quoi. Mais des bonnes versions de dubs, mais à chaque fois, c'est des mecs différents qui chantent, ou t'as pas le gimmick. En tout cas, celle de Lee Scratch Perry est quand même, genre, juste la meilleure.
Alors, j'ai deux versions. J'en ai une plus courte de 3 minutes 30 et une de 7:51. Toi, tu sais.
Ouais, moi, c'est celle de 7:51. Ouais.
Ok, alors, bah, peut-être que j'avancerai un tout petit peu
oui,
dans le morceau.
De toute façon, c'est toujours la même chose.
Après, ce sera la même chose, ouais. Au bout de 20 secondes, t'as entendu le morceau, quoi.
Et ouais, et du coup, vu que je joue avec des grosses enceintes, là, à chaque fois, je monte le son sur le jeu de skate, ça me régale.
Eh bah, écoute, on s'écoute un extrait, Disco Devil, Lee Scratch Perry. C'est parti.
Bye! Chase you out of earth.
Bah c'est ça. Ça sature le truc là. Le limiteur il pète un câble.
Alors je connaissais la version avec Max Romeo.
Bah oui, j'avais oublié de citer, mais il y a la version avec Max Romeo.
Ouais, mais dans laquelle était déjà Lee Scratch Perry a déjà participé à la version.
Ouais, mais je
savais pas qu'il avait fait sa propre version comme ça.
Ouais. Et cette version, elle est trop. Enfin, je sais pas, elle est trop bien.
Ça, c'est dans le jeu.
Ouais, dans ça c'est dans. Ouais, en plus c'est dans le jeu.
Ça doit te mettre bien.
Mais tu sais, t'as du Maggie, t'as mille trucs trop bien. T'as même Magdalene Abbé, leur hit là. Moi, j'étais trop fan là. C'est sorti l'année dernière là.
Ok.
Tu vois pas,
j'ai vu un reel de skate qui m'a fait hurler de rire où le mec en fait il dit je joue à skate mais je ne fais les tricks que je peux faire IRL.
Ah. Et du coup,
il fait
voler
un
ollie.
Et après, à chaque fois il s'arrête devant l'obstacle et il prend le perso qui prend sa planche, qui descend les escaliers et qui se remet dessus.
Réalistique version.
Ah ouais, parce que t'as aussi la vanne de je fais que des trucs que je fais en IRL et t'as que le mec qui fait que voler. Ça c'est pas mal.
Et bah tu sais quoi, t'as cité McGee. Eh bien, on va écouter Marocco, c'est un morceau où dans lequel McGee intervient. Parce qu'on ne parle pas assez d'un de mes artistes favoris dans cette émission, qui est Bon Iver.
Ok, j'ai cru que t'allais dire Justin Bieber.
Non.
J'aurais kiffé en même temps.
C'est avec Dijon qu'il a fait un album.
Ah oui, c'est avec Dijon.
Mais c'est la même clip.
Mais c'est avec lui qui stream, non? C'est avec lui qui stream.
Je ne serais pas capable de te dire. Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est la même clique, McGee, Dijon, ils travaillent ensemble,
ouais,
etc. Et donc, on n'a jamais parlé dans l'émission du dernier album de Bon Iver, qui est sorti en 2025, qui s'appelle Sable Fable, je sais pas comment faut le dire.
Ah, mais trop bien, parce qu'on en a parlé, j'ai pas eu le temps d'écouter.
C'est vrai.
Donc,
Alors, je suis un très très grand fan de Bon Iver. C'est pas forcément mon album préféré, mais ça reste un album de Bon Iver, donc c'est forcément bien.
Faut valider.
Absolument. Et je mets un des petits bonbons hyper easy listening de l'album, et qui est justement avec McGee, dont on reconnaît tout de suite la guitare, et ça s'appelle From, et c'est hyper bien. Ouais, c'est très
drôle. J'ai envie de faire du rodéo.
C'est clair, il y a le côté ricain de fou.
Ouais, quoi. Carrément.
Ricain, pays qui est fasciste.
Qui est bien réinterprété. Oh. qui est bien réinterprété, modernisé, etc. Et dans tout l'album, il y a plein de références soul, country, un peu americana, etc. Plein de trucs mélangés. En même temps, avec les délires aussi, parfois un peu plus glitchy, qu'il a développé déjà il y a quelques années, Bon Iver et tout. Toujours des harmonies, toujours sa voix qui est trop bien. Enfin, franchement, l'album est bien. Voilà, c'est pas mon album préféré de Bon Iver.
Ça bluffable.
Mais ouais. Mais un mauvais album de Bon Iver, ça n'existe pas. Donc,
Ok.
Bon Iver.
Ouais. Personne ne dit rien.
Ouais, je sais pas, non, après, chacun ses goûts, hein, mais, je.
Oh, moi, j'adore, hein, bien sûr, cette musique de Redneck, là.
Faut pas l'écouter, là.
C'est bien parce que vous avez deux styles très différents et ça fait plaisir.
Eh ben, écoute.
Mais c'est l'éclectisme. C'est ça, mon
garçon. Exactement.
Il y en a pour tous les goûts.
Il nous reste plus qu'à remercier Mel de Montagne, évidemment.
Bien sûr.
Bah, c'est vous que je remercie parce que je suis un admirateur.
Oui, tu connaissais l'émission déjà.
Ouais, je connaissais. Ouais.
Alors attends.
J'avais découvert quoi ?
Tu connais l'émission, mais est-ce que tu connais notre
sponsor ?
Sponsor. Que tu connais Thomas.
C'est mon rêve.
Est-ce que c'est Thomas qu'on remercie ? Bon, on te pose pas la question, mais si on te la pose.
C'est mon rêve en fait, mon rêve.
T'achètes parfois chez Thomas, j'imagine.
Bah non, mais je suis fan de Thomas.
Voilà.
Je suis un grand fan. Voilà.
Il a les posters.
J'ai tout vu. Je vais en Allemagne, aller au magasin évidemment. Bientôt. Non, mais je vais vivre à Berlin en plus, je pense, quelques mois. Parce que j'adore cette ville. Donc je me suis dit que je sais pas si c'est près de Berlin. Mais
alors c'est pas à côté de Berlin, la ville la plus grosse ville, la plus proche est Nuremberg, mais c'est pas non plus à des heures et des heures et des heures. Et surtout, tu sais qu'il y a, alors ils sont encore en train de rajouter, ils construisent encore de nouveaux bâtiments, etc. Mais à terme, il y a déjà un grand magasin de musique là où il y a vraiment Thomann, où les locaux de Thomann.
Ouais, ouais.
Et à terme, ce sera le plus grand magasin de musique du monde, physique. Hein.
Okay.
Complètement hallucinant.
C'était des guitares et tout.
Et la folie.
Des cartes son.
C'est complètement fou.
Non, mais j'avais vu l'histoire de Thomann, la petite maison, le truc.
Donc, il faut que, effectivement, le magasin est encore dans la petite maison en partie. Enfin, ils ont gardé une partie de la petite maison. Tout. Bon,
mais je suis un bon geek de matos. Même les trucs qui m'intéressent pas, je veux comprendre comment les machines fonctionnent. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'intéresse. Et c'est vrai que Thomann, c'est pas mal.
Ça, c'est, je bon, pense qu'on pourra finir là-dessus.
Oui, complètement.
Thomann, c'est pas mal.
C'est pas mal. Non, non, mais vraiment, merci Thomann, quoi. Je peux enfin tester mes pédales de grade.
C'est vrai qu'il y a même un truc sur le site pour tester comme ça.
Bah ouais, mais parce que c'est insupportable. En fait, tu vas dans un magasin, t'as pas ta gratte, t'as pas le son. Il y a toujours un truc qui marche pas. Enfin, je sais pas comment dire. Alors que là, tu vois, t'hésites, tu prends les deux, t'en envoies une. C'est quand même du génie.
Bon, merci aussi évidemment à François qui monte l'émission.
Merci François.
À la Bouclette qui fait le monte.
Merci Flavien, Sam aujourd'hui. Hein, merci la Bouclette. Merci qui ? Merci la vie, je pense.
Bah oui. Puis merci à vous de nous écouter évidemment.
Bien sûr.
Je rappelle dans la description que vous pouvez trouver à la fois la playlist des recos de Monte le Son du podcast. Vous pouvez aussi trouver le lien pour nous laisser des messages répondeurs si jamais
ça
vous
tente.
Je pense pas qu'on écoutera à chaque épisode, parce que ça prend un peu de temps et tout, mais de temps en temps on se fera une petite session. Et puis nous on se retrouve dans 15 jours.
Bien sûr. Nous on se retrouve en fait demain, mais après demain.
Et ça sera pas d'ailleurs cet épisode-là qui sortira tout de suite. Il y en aura un autre entre temps.
Encore de la stratégie, c'est incroyable.
Parce qu'on essaie de se caler parfois sur des sorties, tu vois. Bon, on est sur ce genre de choses.
Ouais, mais il faut réfléchir en 5 dimensions. Ouais. Bravo.
Mais pour vous c'est simple. Un mercredi sur deux, on est là. On sera donc là dans 15 jours, le prochain mercredi. Merci à tous.
Ciao.